Europe 1.
Nous sommes le vendredi 22 mars, il est 7h. Europe 1 matin.
7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
La disparition d'un dandy de la culture aux mille vies, animateur, cinéaste, patron de cinéma, ministre d'un gouvernement de droite, alors que son nom le classait à gauche. Frédéric Mitterrand est mort hier à l'âge de 76 ans. Menace d'attentat, trafic de drogue, Gabriel Attal annonce un plan de sécurisation pour renforcer 500 écoles, collèges et lycées particulièrement exposés au trafic de stupéfiants. Dans les universités, c'est la montée de l'antisémitisme qui inquiète. Enquête ce matin et reportage sur Europe à la fac de Lille dans un instant. L'affaire Grégory également, il en sera question puisqu'elle rebondit après 40 ans. Et puis on parlera de Karim Benzema avec l'équipe de France, peut-être aux Jeux Olympiques. Pourquoi pas, dit le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Je vous dis bonjour Dimitri, mais son bonsoir à lui restera à jamais légendaire. Frédéric Mitterrand commençait toujours une émission de télévision comme ça.
Bonsoir. L'œuvre de Kenji Mizoguchi traverse...
Un gimmick inimitable. Le président Emmanuel Macron ne s'y est pas trompé dans son hommage adressé sur X, anciennement Twitter. Ces légendaires bonsoirs vont nous manquer, écrit le chef de l'État. Frédéric Mitterrand est mort hier à 76 ans, vaincu par un cancer agressif. L'homme a marqué à sa façon l'histoire de la télévision, de la radio aussi. Il a animé une émission sur Europe 1 entre 1997 et 2006. Inclassable, jamais là où on l'attend. Frédéric Mitterrand surprend son monde, notamment en acceptant le poste de ministre de la Culture sous la présidence Nicolas Sarkozy. Arthur Delaborde.
Avec un nom admiré à gauche, Frédéric Mitterrand entre au gouvernement sous un président de droite. En juin 2009, en confirmant lui-même sa nomination, il répond sur France 2 à ceux qui s'étonnent de voir un Mitterrand ministre sous Nicolas Sarkozy.
Sarkozy a bien été ministre au temps de Mitterrand.
Qu'est-ce que ça représente personnellement pour vous ?
Une tâche exaltante et un honneur.
Alors il y a beaucoup de gens de gauche qui vont se dire, encore un qui passe de l'autre côté. Ils vont se demander, est-ce que Frédéric Mitterrand est de gauche ?
Je leur laisse le soin de répondre à la question.
Au ministère de la Culture, Frédéric Mitterrand enchaînera rapidement les polémiques en prenant par exemple la défense du cinéaste Roman Polanski poursuivi pour viol. Marine Le Pen l'accusera aussi de pédophilie en exhumant des extraits d'un de ses livres. Malgré tout, Frédéric Mitterrand occupera le poste pendant près de 3 ans, une longévité presque record rue de Valois. De son passage, il reste notamment la loi Hadopi 2 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet.
Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1 et l'ancien président Nicolas Sarkozy a tenu à rendre hommage à son ancien ministre de la Culture.
Je l'avais choisi comme ministre de la Culture et il m'avait fait une petite blague puisqu'il avait cru bon le pauvre, tellement enthousiaste. Il m'avait annoncé sa nomination 24 heures avant que le gouvernement ne fût connu, ce qui avait provoqué une belle polémique comme le milieu politique français les adore. Je ne lui en avais pas voulu parce que j'avais mis cela sous le compte de l'inexpérience et de l'enthousiasme. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un quand il est tellement heureux d'être nommé.
L'hommage de l'ancien président Nicolas Sarkozy à Frédéric Mitterrand hier sur CNews.
7h03 sur Europe 1. Les actes et agressions antisémites en nette hausse depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre. Le phénomène touche en particulier les universités.
Les témoignages se multiplient. Tous décrivent un climat hostile, de l'agression verbale à l'intimidation. Les étudiants juifs se disent régulièrement harcelés en raison de leurs convictions. Europe 1 a mené l'enquête à la faculté de Lille. Reportage Lionel Gougelot.
Alors qu'aucun mouvement de solidarité ne s'était manifesté dans l'université à l'égard des victimes du 7 octobre, c'est après le déclenchement de l'offensive israélienne sur Gaza que Tom, étudiant à Sciences Po Lille, a constaté une libération de la parole antisémite.
Quand on me dit frontalement, vous méritez ce qui vous arrive, oui, c'est la haine du juif. Je pense que ces personnes-là se réjouissent de ce qui a pu arriver le 7 octobre et se réjouissent de l'ambiance actuelle qu'il y a en France et dans les universités.
Un climat constant d'hostilité instauré souvent par l'ultra-gauche, ressenti également par Iris en fac de droit.
Moi, je me sens pas du tout à l'abri d'une agression. À cause du climat de violence, les distributions de prospectus haineux et diffamatoires, calomnieux, c'est extrêmement choquant.
Et quand ces étudiants alertent les autorités universitaires, on leur répond pas de vague.
On est toujours dans la nécessité de justifier par A plus B que c'est ça qui a pu nous arriver et que c'est vraiment de l'antisémitisme. On a l'impression qu'on veut nous faire taire. Parce que ça fait tâche de faire remonter ce genre d'informations dans des cadres comme Sciences Po, comme à l'Université de Lille. Il y a vraiment cette volonté de cacher les problématiques d'antisémitisme.
Des étudiants qui, pour la plupart, refusent de céder à la peur, ce serait dire aux antisémites qu'ils ont gagné.
Enquête dans le milieu universitaire lillois, Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
Et qu'on retrouvera en longueur sur le sujet tout à l'heure à 7h40. Venons-en à ce qu'on appelle un cold case, une affaire jamais résolue. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la disparition il y a plus de 40 ans du petit Grégory.
Le corps de l'enfant avait été retrouvé mort noyé dans la Vologne. Le dossier a été rouvert et refermé à plusieurs reprises. La justice s'intéresse une nouvelle fois à l'ADN retrouvé sur les cordelettes qui entouraient le corps du garçonnet, mais pas seulement. Elle réclame aussi la possibilité d'expertiser la voix du corbeau, délateur anonyme qui a compliqué la tâche des enquêteurs à l'époque. Maître François Saint-Pierre, avocat de l'un des parents du petit Grégory.
Dans les cold cases, il s'agit de mettre en œuvre des nouvelles technologies sur des preuves très anciennes. Dans l'affaire Grégory, il restait des traces d'ADN qui n'étaient pas répertoriées ni attribuées. La justice dit qu'il faut compléter le dossier à cet égard. Et puis un autre sujet qui me semble tout à fait important, il y a une nouvelle technologie qui consiste à identifier la fréquence vocale d'une personne. C'est comme une empreinte digitale, sauf que c'est une empreinte vocale. Et vous savez qu'il y a eu de nombreux enregistrements de corbeaux, sans doute plusieurs personnes. Et la question est de savoir si on peut les identifier grâce à ces enregistrements et cette nouvelle technologie. Jean-Marie Christine Villemain, ils ont toujours l'espoir d'avoir une réponse et la détermination jusqu'au bout de continuer leur combat pour la vérité et la justice.
Maître François Saint-Pierre, l'un des avocats des parents du petit Grégory, joint au téléphone par Mélina Fachin.
La crise agricole suite est certainement pas fin. En Occitanie, berceau de la révolte, les agriculteurs continuent leur opération coup de poing. Ils sont repassés à l'action cette nuit.
Avec un convoi d'une soixantaine d'agriculteurs qui a fini par stopper devant la sous-préfecture de Muret, près de Toulouse, ils réclament le versement des aides promises. Reportage du correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Charles L'Huillier.
On prend les fourgons, on avance, allez.
Une soixantaine d'agriculteurs au volant de camions remplis de détritus. Première étape pour le cortège devant un centre des finances publiques.
On déroule une balle de paille devant le centre des impôts. Les agriculteurs sur la paille.
La première action d'une longue soirée. Le convoi reprend la route. Sur le chemin, les agriculteurs en profitent pour arracher des panneaux à l'entrée des villages.
Par contre, on va le prendre sur la gueule, ça. Je le vois arriver.
Hop.
Vous la tenez, les gars ?
On laisse tomber, là ?
Mais oui. On va amener ces panneaux devant le symbole de l'État qui s'appelle les sous-préfectures.
On redémarre !
Direction la sous-préfecture de Muret, à 30 minutes de Toulouse, où pneus et panneaux sont jetés par-dessus la grille.
Ouais, là, on jette des pneus dans la merde derrière la préfecture. Ah, c'est un joli petit cadeau empoisonné.
La conséquence d'un ras-le-bol pour Jérémy, éleveur de 30 ans qui attend toujours ses versements de la PAC.
Je dois plus de 60 000 euros à des fournisseurs et il nous manque 50 000 euros qui doivent être versés sur le compte. La semaine prochaine, on va fermer le pays entièrement.
Une mobilisation qui, cette nuit, a donc été organisée en guise d'avertissement. À Muret, Charles L'Huillier, Europe 1.
L'actualité à l'étranger, les Nations Unies se prononcent aujourd'hui sur un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Résolution déposée par les États-Unis, c'est important de le souligner. L'allié historique d'Israël avait jusque-là opposé un veto systématique à cette idée. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu aujourd'hui en Israël pour tenter d'arracher un accord de trêve.
Ah oui, c'est vraiment un mouvement important de la diplomatie américaine vis-à-vis d'Israël. Allez, les sports, Didier Deschamps, invité exclusif du studio des légendes demain soir sur Europe 1. C'est le sélectionneur des Bleus, c'est confié. Jacques Vendroux.
Ah oui, il parle de l'avenir de l'équipe de France, bien sûr, et de ses chances à l'Euro. Le sélectionneur actuellement à Clairefontaine pour préparer les deux matchs amicaux demain et mardi. Et en conférence de presse, il est revenu sur la possibilité de voir Karim Benzema rejoindre l'équipe de France Espoir aux Jeux Olympiques.
Pourquoi pas que Karim puisse... Il y en a d'autres qui l'ont fait. Maintenant, la réponse, c'est pas moi qui vais vous la donner parce qu'elle ne dépend pas de moi. C'est Thierry Henry même. Après, comme d'autres grands joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France, voilà. Au moins, ça a le mérite d'être clair que c'est quelque chose qui l'intéresse.
Didier Deschamps, lors de sa conférence de presse à Clairefontaine, alors précision Dimitri et Anissa, pour l'équipe de France Espoir, chaque sélection peut compter 3 joueurs de plus de 23 ans dans ses rangs.
Voilà, on comprend mieux
par les organisateurs.
Voilà pourquoi Karim Benzema pourrait éventuellement participer aux Jeux Olympiques avec les moins de 23.
Il a un tout petit peu plus de 23 ans.
Je crois, quelque chose comme ça. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal.
Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre dans 10 minutes, le jour où votre rendez-vous quotidien avec les archives d'Europe 1.
Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour à tous.
Alors quel jour allons-nous revivre ce matin?
La carrière de Fanny Ardant qui fête aujourd'hui ses 75 ans.
Et bah, bon anniversaire Fanny Ardant. À tout à l'heure, dans un instant, l'affaire Madame, la rumeur rumeur qui salit la réputation de Brigitte Macron depuis des années. On va en parler avec la journaliste au Nouvel Obs, Emmanuelle Anison, qui consacre un ouvrage à cette affaire. À tout de suite.
Europe 1.
Tous les week-ends, samedi et dimanche, à 9h moins le quart sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Julia Vignali dans un tête-à-tête avec une personnalité.
Oui, les incontournables de Julia Vignali, c'est le rendez-vous culturel de vos réveils du week-end. Cinéma, musique, littérature, tous les acteurs culturels sont sur Europe 1. Demain matin, Julia Vignali reçoit Alexandra Lamy et Édouard Bergeon pour le film La Promesse Verte en salle mercredi prochain. Et dimanche, la chanteuse Catherine Ringer. Il y a quelques jours, elle chantait la Marseillaise. Aujourd'hui, elle sera sur Europe 1. Rendez-vous dimanche, 9h moins le quart. Les incontournables de Julia Vignali. C'est tous les samedis, tous les dimanches à 9h moins le quart dans Europe 1 Matin Week-end.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Chez Opel, Corsa, Astra et Moka ont tous un double électrique. Et quoi de mieux qu'un double électrique ? Un bonus écologique doublé. Pendant les portes ouvertes, Opel double le bonus écologique de 4000 euros à 8000 euros. Vous avez désormais 8000 bonnes raisons de passer à l'électrique chez Opel. Rendez-vous en concession jusqu'au 23 mars pour en profiter. 4000 euros de bonus écologique et 4000 euros de reprise dans le réseau participant. Offre à particulier, voir détails sur opel.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
IKEA.
Bon, chérie, tu viens ?
Oh non, je suis bien sur le canapé, là.
Mais enfin, on rencontre le fiancé de ta fille.
Ah ben on fait ça en visio.
Le confort à petit prix, ça donne envie d'en profiter. Jusqu'au 31 mars chez IKEA, tous les canapés Kivik sont à moins 20% avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous en magasin et sur IKEA.fr.
Bon Tim, les licornes ça existe ? Non. Et le T-Roc à partir de 189 euros par mois, est-ce que ça existe ? Hein ?
Mais je te jure papa !
On a souvent tendance à se tromper sur le prix d'une Volkswagen. En ce moment, profitez du T-Roc à partir de 189 euros par mois et de 2 mois de loyer offert. LLD 37 mois et 30 000 km, premier loyer de 5 000 euros, puis 34 loyers de 189 euros si acceptation par Volkswagen Bank. Valable sur une sélection de véhicules du 1er au 31 mars dans la limite des stocks disponibles. Conditions sur Volkswagen.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
7h, 9h.
Europe 1 Matin.
Il est 7h15 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la journaliste Emmanuelle Anison.
Bonjour Emmanuelle Anison.
Bonjour.
Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes grand reporter au Nouvel Obs, qui a retrouvé son nouvel, hein, donc son ancien nom.
Exactement, nouvelle formule.
On va à lire, effectivement. On va parler avec vous de L'Affaire Madame. C'est le titre de votre livre qui paraît aujourd'hui chez Studio Fact Edition. J'en montre la couverture à ceux qui nous regardent sur Europe 1.fr. Alors, la dame en question, c'est la première dame, Brigitte Macron, cible d'une fake news qui a la peau dure depuis des années. La première dame n'en serait pas une. Les rumeurs les plus folles et même les plus invraisemblables courent sur son identité et pas seulement sexuelle. En résumé, Emmanuelle Anison, c'est quoi l'affaire Madame ?
Alors, l'affaire Madame, c'est le 10 décembre 2021, une émission sur une chaîne YouTube complètement inconnue, d'une médium.
Assez ésotérique, on peut le dire.
Voilà.
Hein. Oui.
Qui reçoit une femme, qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui est cachée sur une photo, avec un grand chapeau, des lunettes noires, qui explique qu'elle est journaliste d'investigation indépendante, qu'elle a travaillé pendant 3 ans et qu'elle peut révéler preuves à l'appui que Brigitte Macron est un homme, qu'elle est en fait son frère Jean-Michel. Alors, cette émission aurait pu, qui a duré 4 heures, aurait pu rester complètement dans les limbes d'Internet, comme il y en a tant. Sauf que elle franchit toutes les frontières, elle est relayée, vue par des centaines de milliers de personnes, elle dépasse complètement le monde complotiste, elle arrive dans une sphère beaucoup plus large, et elle est tellement reprise que Brigitte Macron est obligée de s'exprimer un mois après, sur TF1 plus sur RTL, pour dire... qu'elle n'est pas un homme, et puis pour dire qu'elle va attaquer en diffamation. Et cette affaire a un tel écho qu'elle est même reprise à l'étranger. Elle fait l'objet d'une dépêche Reuters et elle est reprise dans plusieurs pays à l'étranger comme une information importante. Donc ça m'a semblé être quelque chose, une affaire tellement énorme en fait, tellement exceptionnelle puisqu'elle touche le plus haut sommet de l'État et qu'en plus elle est incarnée par cette femme, Natacha Ray, dès le départ. J'ai trouvé que c'était intéressant de s'y plonger.
Alors il se trouve qu'en fait la rumeur courait avant l'enquête de Natacha Ray, dès l'élection d'Emmanuel Macron. En réalité, on verra que des rumeurs similaires ont touché d'autres femmes politiques à l'étranger. Et alors, le cœur de votre livre, c'est que pendant plus de 2 ans, vous avez suivi Natacha Ray. Il a été difficile d'entrer en contact avec elle parce que vous allez nous expliquer, vous la classez comme une défiante. Mais d'abord, en 2 mots, Natacha Ray, qui est-elle, cette femme ?
Alors, Natacha Arey, au moment où elle fait cette émission, en 2021, elle a 51 ans, c'est une jolie femme qui vit dans le sud-ouest de la France, qui a une enfance totalement normale, qui voulait être artiste, chanteuse, qui écrivait des textes, qui a beaucoup lu, qui est assez cultivée, et qui, peu à peu, comme beaucoup et de plus en plus de gens, s'est installée dans une défiance vis-à-vis des institutions, des politiques. Elle ne votait pas, à part pour les partis qui défendaient les animaux, parce que c'est quelqu'un qui est très investi dans la défense animale. Elle, au moment des Gilets jaunes, elle a soutenu les Gilets jaunes. Au moment du Covid, elle a exprimé de manière assez virulente sa défiance sur le vaccin sur Facebook. Donc c'est quelqu'un qui, peu à peu, en fait, s'est éloigné, on va dire, du système politique et...
un moment aussi un peu de fragilité dans son existence, puisque finalement, cette affaire Madame va combler toute sa vie, pratiquement, à un moment où ça va pas très fort, finalement, pour elle. Il y a une espèce de circonstance, en fait, dans son existence.
C'est-à-dire qu'au moment où je la rencontre, en fait, elle a donc quitté son ami, et c'est vrai qu'elle a passé beaucoup de temps sur Internet, et peu à peu, quand moi, au moment où j'ai rencontré, j'ai vraiment senti que cette affaire l'avait complètement happée. Elle y a dédié sa vie, elle y a aidé ces dernières années, elle travaillait à 100% sur cette affaire, surtout qu'elle s'est retrouvée entourée de plein de gens qui l'ont aidée et qui l'ont sans doute, qui ont contribué à ce qu'elle reste complètement dans cet univers.
Alors vous dites qu'aujourd'hui prospère une brigittologie qui développe des théories alors extrêmement élaborées à propos de Brigitte Macron. Je vais citer quelques-unes des questions auxquelles c'est défiant, parce que malgré tout, vous ne les appelez pas complotistes, vous les appelez défiants, vous avez du respect quand même pour ces personnes, parce que malgré tout, il y a une logique derrière tout ça. Je vais citer quelques-unes des questions et des théories quand même qu'ils mettent sur la table. Et si Jean-Michel et Brigitte Trogneux, son frère donc, ne faisaient en réalité qu'un? Ou bien Brigitte est bien la sœur de Jean-Michel, mais Brigitte en réalité serait décédée, Jean-Michel aurait usurpé son identité, pris sa place en quelque sorte, après avoir changé de sexe et avec l'accord de leurs parents. Autre théorie, alors là vraiment, on franchit tous les caps, Brigitte Macron serait en réalité le père d'Emmanuel Macron et sa mère serait une descendante Rothschild. C'est complètement fascinant quand même.
Oui, alors mais quand on les accompagne de l'intérieur, et là je reviens justement à ce que vous disiez, je les appelle défiants parce que contrairement à ce qu'on pourrait dire, et c'est ce que beaucoup de gens me disent, ce ne sont pas juste des gens avec deux neurones d'extrême droite, c'est facile. Ouais. En fait, d'abord, il y a de tout. Et surtout des gens qui sont complètement détachés de la politique, on va dire, traditionnelle. On ne peut pas les décrire avec une grille de lecture classique. Et puis, ce sont des gens qui ont un travail, qui sont insérés dans la société. J'ai vu une banquière, j'ai vu, il y a un assureur, une hôtesse de l'air, un jeune entrepreneur en événementiel culturel. Voilà, donc on a affaire, et c'est pour ça que c'est important pour moi de ne pas mettre complotiste, parce qu'on a affaire à des gens qui ont d'abord des degrés de défiance différents, et puis qui sont comme vous et moi, insérés dans la société et qui réfléchissent. Et comment on en arrive à des thèses aussi dingues? Eh bien, parce qu'il y a une espèce de logique implacable qui fait qu'on part au départ de suppositions, c'est-à-dire il y a du mensonge, et il peut y en avoir du mensonge dans cette histoire. Il y a du silence, et il y a du silence, évidemment, comme souvent dans toutes les histoires familiales. Et à partir de là, on brode, on cherche. Donc, par exemple, Natacha Arey se dit, alors, si Brigitte Macron est le père des enfants, qui est la mère. Alors, il faut trouver la mère. Et donc, à ce moment-là, on élabore une nouvelle théorie. Et en fait, une nouvelle théorie en amène une autre, Et c'est là qu'on arrive à des thèses absolument folles.
Alors, on ne va pas donner tous les détails, il faudra les lire dans votre livre. Mais ce qui ressort quand même, qui est assez intéressant, vous citez l'un des amis de Natacha Arey que vous avez rencontré, qui vous dit, mais au fond, ils sont assez indignés qu'on les accuse d'être transphobes. Parce que pour eux, ils disent finalement, l'identité sexuelle de Brigitte Macron, après tout, ce n'est pas tellement leur sujet. Il dit, la question, c'est celle de la vérité. Et il y a quelque chose qui ressort beaucoup aussi dans leurs propos, Emmanuel Anison, c'est ils vous disent l'impunité mondiale des puissants qui serait en fait dégénérée moralement et donc sexuellement. Et finalement, c'est cette histoire du mensonge et de la protection de l'entre-soi finalement qui les indigne avant tout.
C'est ça, et c'est là aussi c'est pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que ça nous pose question collectivement. Oui. C'est-à-dire que autant on en arrive à des histoires et des théories complètement absurdes et folles, autant le terreau qui nourrit ces au départ cette dérive, il est là. C'est-à-dire que oui, sans doute que collectivement les puissants ont échappé à la justice plus que d'autres.
On parle beaucoup de l'affaire Epstein notamment.
Exactement. L'affaire Epstein est une affaire qui est extrêmement présente dans tout le temps, tout au long du livre, on m'en a parlé de ces années.
Oui.
Donc, qui est effectivement l'histoire de quelqu'un, un Américain, homme d'affaires, qui a organisé un trafic sexuel avec des jeunes filles, et des noms très puissants circulent, dont celui du prince Andrew, qui a eu des soucis et qui a été destitué par sa mère.
La reine d'Angleterre.
Et donc voilà, et Epstein a été, enfin, s'est suicidé en cellule. Son correspondant français s'est suicidé en cellule, et ça soulève évidemment beaucoup de questions, oui, et beaucoup de fantasmes.
Alors, il y a Brigitte Macron, mais on l'a dit, il y a 10 ans aussi aux États-Unis, Michelle Obama avait été victime d'une diffamation absolument identique. Michelle Obama serait en réalité un homme. Voilà la rumeur qui prospérait aux États-Unis. Il se trouve que Begoña Gómez, la compagne de Pedro Sanchez, premier ministre espagnol, victime exactement de la même diffamation, Jacinda Ardern, première ministre néo-zélandaise. Et vous dites qu'en fait, c'est un phénomène mondial. Qu'est-ce que c'est que ce phénomène ?
Oui, c'est-à-dire qu'on se rend compte que cette idée que l'élite a des valeurs inversées, que dévoyées, et que elle est internationale. Et quand je dis à Natacha, mais vous voyez bien que puisqu'il y en a partout, en fait, entre guillemets, des rumeurs comme ça, ça veut bien dire qu'on est juste face à une défiance générale vis-à-vis des politiques. Elle me répond non, ça veut dire qu'il y a des, oui, trans à la tête des États partout, et que donc cette inversion, oui, et ce dévoiement des élites est bien partout. Et donc c'est là qu'on se rend compte que c'est extrêmement compliqué, oui, d'argumenter et de discuter.
Et qu'est-ce qu'on pense, au final, on terminera là-dessus, Emmanuel Anison, la stratégie du silence de Brigitte Macron, finalement, qui répond assez peu aux accusations. Il y aura un procès en mars 2025, mais malgré tout, il n'y a pas tellement de volonté de riposter.
Bah, c'est une stratégie qui est différente de celle de Michelle Obama, qui, elle, a beaucoup communiqué sur son enfance, a écrit, a laissé des commentaires, a fait parler sa famille. Effectivement, là, on est face à un silence de Brigitte Macron, d'une famille qui ne parle pas. Alors après, chaque option se défend, hein. On peut estimer qu'on ne doit pas nourrir la machine, et c'est effectivement le positionnement de la famille de Brigitte Macron. Après, comme tout ce fantasme est lié, on va dire, au mensonge et au silence des élites, moi, il me semble que la transparence dans une ère telle qu'aujourd'hui, avec des gens qui sont extrêmement informés et où l'information est partout, il me semble que la transparence est peut-être plus intéressante, et en tout cas l'exemplarité.
Merci Emmanuel Anison d'être venu ce matin au micro d'Europe 1. Je redonne le titre de votre ouvrage, L'affaire Madame, le jour où la première dame est devenue un homme, anatomie d'une fake news, qui paraît donc ce jour chez Studio Fact Édition. Merci d'être venu sur Europe 1. Bonne journée à vous.
Bon réveil, merci d'avoir choisi Europe 1, il est 7h25.
L'essentiel de l'actualité, c'est le journal permanent à 7h25 sur Europe 1. Christophe Lamarre.
Son légendaire bonsoir va nous manquer, dit Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy exprime sa profonde tristesse. Les hommages se multiplient après l'annonce du décès de Frédéric Mitterrand. L'ancien ministre de la Culture et animateur de télévision est mort hier à 76 ans. Nouveau rebondissement dans une affaire entourée d'un épais mystère, le meurtre jamais élucidé du petit Grégory en 1984. La justice ordonne de nouvelles expertises ADN. Le taux de réussite du brevet des collèges cible d'un vaste trucage. Le Figaro révèle les conclusions d'une enquête menée par Matignon. Des comités de correction au sein des rectorats gonflent systématiquement les notes. Le record pour Créteil où la surnotation atteint presque les 6 points. Un premier petit pas à Bruxelles en faveur de l'Ukraine, les 27 d'accord pour prélever les intérêts des avoirs russes gelés dans les banques européennes.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. C'est l'espoir.
Europe 1. Et à 7h26 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où.
Aujourd'hui, l'actrice Fanny Ardant a 75 ans. Elle était l'invitée de Culture Média, d'ailleurs, la semaine dernière, Fanny Ardant, sur le point de remonter sur les planches. Lors d'Autriche, vous vous êtes plongée dans les archives d'Europe 1 pour retrouver des entretiens et des moments intimes avec l'actrice.
Oui, Fanny Ardant et sa chevelure brune, sa volubilité malicieuse et son rire sonore. Le cinéaste François Truffaut lui offre l'un de ses grands rôles en 1981 dans La femme d'à côté. Elle y joue une femme consumée par un amour destructeur. Interview sur Europe 1 cette année-là.
Je trouvais que toujours tous ces personnages avaient une grande vérité. On les mettait pas ni du côté, ils sont complètement bien, ni ils sont complètement mauvais. C'était la vie. Ces personnages ont une grande vie.
Pour être aimé, il faut être aimable. Et moi, je suis bonne à rien.
Elle vit aussi une histoire d'amour avec François Truffaut et ils auront ensemble une fille. L'un des autres grands rôles de Fanny Ardant a lieu au début des années 2000 quand elle incarne la cantatrice Maria Callas, qu'elle avait jouée sur scène aussi avant.
Je pense qu'il ne faut jamais rester trop longtemps de la scène parce que c'est une technique très particulière.
Donc, on peut oublier, enfin, oui, ou on peut perdre des choses.
Oui, ou on perdrait ce sens de l'apprivoisement. Moi, j'ai toujours pensé que le théâtre, c'est comme le tigre et le dompteur. Il faut pas rester éloigné des fauves trop longtemps, sinon la peur pèserait plus lourd dans la balance que le plaisir.
Pour Fanny Ardant, tout se joue à l'âge de 15 ans. Ensuite, on ne fait qu'évoluer. À 15 ans, justement, elle était trop grande pour les garçons et elle passait son temps à avaler des livres à la bibliothèque. Elle en parle sur Europe 1 en 2021.
Je pense que c'est Balzac qui m'a fulgurée. Puis il y a eu Proust.
Vous avez commencé très tôt à lire Proust.
Oui, très tôt. Même des choses que je ne comprenais pas. Je n'avais jamais entendu parler de l'homosexualité, donc je ne comprenais rien. Et en même temps, ça fonctionnait quand même, vous voyez.
Certains se rappellent aussi peut-être que le chanteur Vincent Delerme a consacré une chanson à Fanny Ardant.
Je m'étais dit, en faisant la chanson, est-ce qu'on lui demande l'autorisation avant de la sortir et tout ça? Et je m'étais dit, bah, de deux choses l'une, soit elle est vraiment super antipathique et elle va être énervée, mais on s'en fout parce que voilà. Soit elle est sympa, elle va trouver ça drôle et c'est plutôt ce qui s'est passé.
Fanny Ardant, et moi, il y a un truc dans son regard.
Vincent Delerme racontait qu'il avait dans sa chambre d'ado une photo de Fanny Ardant et que depuis toujours, il était fasciné, comme beaucoup de gens, par l'élégance de Fanny Ardant.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche. Il est l'heure de jouer avec Europe 1 et le jour où.
7h, 9h, Europe 1 matin.
Et c'est le dernier jour, donc si vous avez hésité toute la semaine à jouer, c'est maintenant ou jamais pour tenter de gagner ce beau cadeau, puisque Europe 1 vous envoie en croisière avec CroisiEurope, la compagnie française leader de la croisière fluviale en Europe. Vous allez naviguer pendant 5 jours avec la personne de votre choix au fil de la Garonne ou de la Dordogne, à la découverte des trésors vinicoles du Sud-Ouest, Blaye, Libourne, Saint-Émilion, c'est magnifique. Tout est compris en plus à bord, hein. On s'occupe de tout pour vous, les boissons, les animations, les visites guidées, les excursions, vous pouvez déjà découvrir peut-être votre future croisière sur croisiEurope.com.
La question du jour, la voici. En quelle année sort le film La femme d'à côté de François Truffaut? 78 ou bien 81?
Pour tenter votre chance, vous envoyez croisière au 739-21, 2 fois 75 centimes plus coût du SMS. Vous répondez à la question du jour. Le tirage au sort aura lieu vendredi et nous annoncerons lundi matin à la même heure le nom du grand ou de la grande gagnante. Notez qu'à 8h10, Olivia Grégoire sera l'invitée de la grande interview Europe 1 CNews.
La ministre déléguée chargée des PME, du tourisme et de la consommation face à Romain Desarbres, c'est dans 3/4 d'heure.
Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
500 écoles mal protégées contre la menace terroriste en France. Gabriel Attal sonne l'alarme et annonce un renforcement de la sécurité au plus vite. Les détails du plan dans un instant. La France au pied du mur de la dette. Le gouvernement très inquiet et à quelques jours du verdict de l'INSEE qui devrait annoncer un déficit au-delà des 5% du PIB en 2023. L'opposition dénonce de son côté une gestion calamiteuse des finances publiques. Et puis cette question, quelle ville est la championne de France des fuites d'eau? 1 litre sur 5 n'arrive pas en moyenne jusqu'à notre robinet à cause du mauvais état du réseau par endroit. C'est bien pire, Europe 1 a mené l'enquête. Le journal de 7h30, Nina Pavan. Bonjour Nina.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des centaines de lycéens de région parisienne toujours sous le choc ce matin, 24 heures après avoir reçu des menaces d'attentat par mail. Un texte faisant référence à l'État islamique accompagné d'une vidéo de décapitation. Les auteurs de ces menaces courent toujours ce matin.
Et hasard du calendrier, Matignon dévoilait hier les résultats d'un audit sur la sécurisation des écoles.
Gabriel Attal annonce le renforcement de la sécurité dans 500 établissements. Parmi les plus à risque, 200 d'entre eux sont particulièrement menacés par le trafic de drogue, Louis Salé.
Le Premier ministre a cité les exemples des quartiers du Chemin Bas à Nîmes, de la Castellane à Marseille et de la Porte de la Chapelle à Paris. Près de 200 écoles, collèges et lycées sont au cœur de trafic de drogue et de règlement de compte entre gangs aujourd'hui qui menacent la sécurité des familles et du personnel, a insisté hier Gabriel Attal.
Il faut nettoyer ces trottoirs aux abords des établissements scolaires. À ce titre, j'ai demandé à la ministre de l'Éducation nationale, au ministre de l'Intérieur et au garde des Sceaux de recevoir le 4 avril prochain l'ensemble des préfets, des recteurs d'académie et des procureurs généraux. Très concrètement, dans les prochaines opérations de démantèlement de points de deal, nous veillerons à ce que ces opérations puissent être construites avec un objectif de sécurisation des établissements scolaires.
Plus généralement, sur la sécurisation des bâtiments scolaires après l'attentat d'Arras, ce sont 500 établissements qui doivent revoir leur dispositif d'alerte, notamment en se dotant d'alarmes anti-intrusion directement reliées aux forces de l'ordre. 150 ont déjà engagé des actions pour renforcer renforcer leur sécurité.
Louis Salé pour Europe 1. La France, au pied du mur de la dette, l'INSEE devrait dévoiler mardi prochain un déficit public supérieur à 5% du PIB pour l'année 2023. 5% confirmé hier par le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, citant le ralentissement chinois et la guerre en Ukraine. Alexandre Chauveau, l'opposition de droite n'a pas manqué cette occasion de dénoncer la gestion incompétente des finances publiques par la Macronie.
Marine Le Pen dénonce un bilan économique épouvantable. Nous empruntons le même chemin que la Grèce, avertit de son côté Éric Ciotti. Face aux mauvais chiffres du déficit public attendu mardi, la droite sonne l'alerte et réclame des comptes au gouvernement, accusé d'avoir voté un budget insincère en novembre dernier. Chez les Républicains, la menace d'une motion de censure apparaît de plus en plus plausible en cas de projet de loi de finances rectificative. Fabien Di Filippo, député LR de la Moselle.
Si le gouvernement essaye de nouveau d'utiliser la méthode « couer, ça ira mieux demain, on met la poussière sous le tapis », alors oui, le risque de la motion de censure est très très proche. Parce qu'on ne peut pas laisser ce gouvernement nous emmener encore davantage sur la pente du déclin, dans le cercle vicieux de la dette qui va paupériser tout le pays.
Alors la droite se défend de toute instrumentalisation politicienne, mais revendique d'avoir alerté depuis plusieurs années sur la gravité de la situation financière du pays. Au RN comme chez LR, beaucoup ironisent désormais avec amertume sur le Mozart de la finance, surnom donné à Emmanuel Macron après son passage chez Rothschild.
Alexandre Chauveau.
Grand bidouillage à l'éducation nationale. Nos confrères du Figaro révèlent ce matin le taux de réussite réel au brevet des collèges. Et il est bien en deçà de ce qui est annoncé.
Le Premier ministre veut mettre fin au correctif académique, une pratique connue mais jamais encore chiffrée qui consiste pour un recteur à rajouter quelques points à l'ensemble des élèves d'une académie pour harmoniser les notes au niveau national. Selon une note confidentielle, le taux de réussite des élèves est ainsi gonflé de 4, 5, voire même 6 points. Exemple dans l'académie de Créteil où un 12 sur 20 vaut en réalité un 6.
Oui, on aura tous les détails tout à l'heure dans la revue de presse d'Europe 1 d'Olivier Delagarde à 9h moins le quart. On l'a appris hier également concernant l'école. Une enseignante du Val d'Oise renvoyée en correctionnel dans l'affaire de la petite Eva L.
Cette collégienne de 11 ans qui s'est pendue chez elle en 2019, victime de harcèlement scolaire par certains de ses camarades mais aussi par l'une de ses professeurs, Geoffrey Branger.
Oui, elle est accusée d'avoir humilié régulièrement la fillette, de l'avoir isolée au fond de la classe ou encore d'avoir organisé des heures de cours sur le harcèlement scolaire lors desquelles elle désignait la collégienne comme étant victime de harcèlement par ses camarades et la forçait à répondre à leurs questions. Pour la famille d'Eva L, ce renvoi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral est un soulagement. Marie, la mère de la fillette.
C'est ce qu'on attendait depuis 5 ans. On peut parler de soulagement puisqu'on n'a jamais été sûr à 100% qu'il y aurait procès. Ça nous aide indéniablement à se dire ce qu'on a vécu, on l'a bien vécu et d'autres personnes sont d'accord avec nous. Si tout s'était terminé il y a quelque temps par un non-lieu, ça aurait été la douche froide.
La qualification initialement retenue d'homicide involontaire fait l'objet d'un non-lieu, mais l'enseignante est également mise en cause pour avoir harcelé deux autres collégiens. Concernant les trois adolescents poursuivis pour avoir harcelé Eva L, un a bénéficié d'un non-lieu et deux sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.
Geoffrey Branger a noté que depuis 2021, cet enseignant ne donne plus de cours à des mineurs et a une obligation de soins psychologiques.
C'est la journée mondiale de l'eau. 2 milliards de personnes vivent sans accès sûr à l'eau potable dans le monde. Pendant ce temps, la France, elle, gaspille.
Et oui, quand vous actionnez votre robinet, 1 litre sur 5 se perd en route à cause des fuites dans les réseaux. Et la championne de France des fuites, eh bien, c'est la ville de Saulnières en Eure-et-Loire. 7 litres d'eau sur 10 perdus. Le reportage de Wilfried De Villers pour Europe 1.
Dans cette petite commune d'Eure-et-Loire, le réseau d'eau potable date des années 30, des canalisations en fonte grise devenues particulièrement fragiles avec le temps. Amandine Pontieux est directrice des cycles de l'eau de l'agglomération du pays de Dreux.
La moindre vibration sur la voirie et un mouvement de sol peut venir de décaler le réseau. On observe des déboîtements ou des micro-cassures qui génèrent des pertes d'eau sur le réseau.
Ces fuites, Christian Albert, le maire de Saulnières, assure qu'il tente de les repérer depuis des années, mais rien n'y fait.
Moi, ça me tourmente beaucoup. On a déjà fait des recherches de fuite il y a 2 ans et on n'a pas amélioré notre rendement d'eau.
Une solution, la rénovation complète du réseau d'eau potable, c'est la compétence de l'agglomération. Son président, Gérard Sourisseau.
Il faut reconstruire le réseau chez eux et ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Des dizaines de kilomètres à refaire, ça voudrait dire que leur prix de l'eau serait de l'ordre de 10 euros du mètre cube, ce qui est intolérable. Il faudra qu'on consacre jusqu'à 50 millions d'euros pour l'agglo du pays de Dreux, pour l'eau.
Des coûts supportés par l'ensemble des communes de l'agglomération et différentes subventions. À Saulnières, les premiers travaux devraient débuter dans les prochains un mois.
Wilfried De Villers pour Europe 1.
Merci beaucoup Nina Pavan, c'était votre journal. À suivre votre club culture, musique et littérature ce matin. On va parler du retour des Anglais de The Cure. Et puis la chronique du vendredi de la rédaction d'Europe 1. Alors les cures, ça fait longtemps quand même. Hein.
Ah bah là, on replonge en adolescence.
Absolument.
Là,
hein. Et nous irons également en immersion ce matin à l'université de Lille où les étudiants juifs rasent les murs. Des murs abondamment tagués de « Mort à Israël, mort aux juifs ». L'enquête de Lionel Gougelot dans un instant.
Bon réveil et bonne journée avec Europe 1. Il est
7h39. 7h, 9h, Europe 1 matin.
Il est 7h42, très bon début de journée, belle fin de semaine avec Europe 1. Vous écoutez Dimitri Pavlenko.
Et puis vous avez peut-être vu, on a un petit ruban rouge ce matin, nous arborons cela parce que c'est les 30 ans du SIDAction. Je vous signale que Lynn Renaud, donc la marraine historique du SIDAction, sera tout à l'heure à 9h30 l'invitée de Culture Média. Mais pour l'heure, le Club Culture d'Europe 1 matin avec les sorties musicales. Nous sommes vendredi. Bonjour Blin Roche.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Qu'est-ce qu'on écoute ce matin.
Les Anglais de The Cure publient à nouveau leur live enregistré à Paris en octobre 1992, version remasterisée complétée par deux titres inédits.
Le livre du jour, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour, Kafka, le procès, c'est livre culte le vendredi.
Allez, à tout de suite. Mais d'abord, comme tous les vendredis à 7h40, la chronique de la rédaction d'Europe 1. Une semaine après la polémique à Sciences Po Paris, la rédaction d'Europe 1 voulait savoir ce qu'il en était ailleurs dans nos universités et nos grandes écoles. Et c'est à Lille que vous avez mené l'enquête, Lionel Gougelot. Bonjour Lionel.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Alors, vous avez rencontré plusieurs étudiants juifs de Sciences Po Lille et de l'Université de Lille. Est-ce qu'ils témoignent eux aussi, Lionel, d'un regain d'antisémitisme ?
Écoutez, oui. Et ce qui est frappant d'abord dans les conversations que j'ai pu avoir, c'est que tous ces étudiants évoquent en premier lieu le silence assourdissant qui a régné dans les facs au lendemain même du 7 octobre dernier. Pratiquement aucun message de solidarité envers la communauté juive, aucune condamnation du pogrom. Et en fait, c'est au déclenchement des opérations militaires d'Israël que les premières manifestations hostiles sont apparues avec des banderoles pro-palestiniennes déployées par exemple à la fac de droit par des associations d'ultra-gauche, des photos des otages israéliens déchirés, un climat d'hostilité qui a en quelque sorte libéré la parole antisémite, m'a dit par exemple Tom, étudiant à Sciences Po.
Quand on me dit frontalement, vous méritez ce qui vous arrive, oui c'est la haine du juif. Et je pense que ces personnes-là se réjouissent de ce qui a pu arriver le 7 octobre et se réjouissent de l'ambiance actuelle qu'il y a en France et dans les universités.
Alors le pire, c'est que ces paroles se transforment parfois en véritable harcèlement, en gestes violents, comme ceux dont a été victime Ellie dans son groupe de travail en fac de lettres.
Ah oui, c'était complètement de la haine. C'était vraiment, quand elle m'a dit « t'es juive », en me levant la main dessus, c'était le point de non-retour pour moi. Il y a une ambiance totale de violence, d'exclusion. De harcèlement avec des remarques du style qu'on les dégoûte quand on arrive en cours, ils se reculent quand on arrive, il y a un climat d'insécurité et d'exclusion.
Un harcèlement qui a contraint d'ailleurs Ellie à déserter la fac et qui l'a plongée dans une profonde dépression.
Bon, cette violence verbale, parfois physique, Lionel, ça veut dire que ces étudiants, ces étudiantes vivent dans une crainte permanente ?
Ben, en tout cas, on peut dire qu'il y a une sorte de climat pesant d'insécurité et des comportements, vous savez, plus sournois, comme celui dont est victime Eris. En fac de droit, elle a été, elle, complètement écartée de son groupe de copains de fac et elle a même été la cible de provocations pro-Hamas au sein même de sa classe.
Nous, on a beaucoup de travaux de groupe dans le master et j'ai été mise à l'écart. Mise à l'écart et même quand les professeurs voulaient m'imposer un groupe, j'ai entendu une fille de ma classe dire « Oh non, pitié pas elle !» Et il y en avait même qui se permettaient en cours de saluer la brave résistance du Hamas et moi, j'avais pas le droit de parler. J'avais pas le droit de parler parce que si je parlais, je savais que ça allait faire beaucoup d'histoires, ça allait péter et je voulais pas ça, je voulais pas le conflit. Donc évidemment, je disais rien, mais on me faisait sentir que j'avais pas intérêt à l'ouvrir.
Alors, vous savez, il faut noter que dans ce climat d'hostilité, Dimitri, ce climat est tel que ces étudiants que j'ai interviewés tout au long de la semaine, eh bien, ils m'ont demandé de le faire anonymement, sous prénom d'emprunt, c'est dire l'ambiance qui règne.
Ouais, édifiant. Comment les autorités universitaires lilloises réagissent-elles, Lionel ?
Alors, en fait, justement, ce que me disent tous ces étudiants, c'est qu'ils se heurtent bien souvent à une sorte de silence gêné de leur direction. Alors, évidemment, il y a à Sciences Po, comme à l'Université de Lille, un référent racisme, antisémitisme que les étudiants peuvent saisir pour faire remonter les incidents, les agressions. Mais tous me disent, comme Déborah, eh bien, que c'est toujours très, très compliqué.
Dès qu'il y a un incident, on voit qu'en face, il y a un certain malaise. D'autant plus depuis la semaine dernière, ce qui s'est passé à Sciences Po, c'est surtout pas de vague. Surtout, il ne faut pas que cet incident se médiatise parce qu'il y a une réelle peur de la médiatisation. Sauf qu'en fait, on a l'impression que cette peur de la médiatisation, elle fait aussi le jeu des antisémites, évidemment.
Alors voilà, ces étudiants doivent donc composer au quotidien avec cette ambiance, mais sans se résigner pour autant. Ne pas céder à la peur, me disait hier Déborah, sinon ce seraient les antisémites qui gagnent. Et je ne leur ferai pas ce cadeau.
Voilà, l'enquête à Lille du correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, à l'Université de Lille, à Sciences Po également. Merci Lionel Gougelot. Bonne journée à vous. 7h46.
7h-9h, Europe 1 Matin.
Allez, le Club Culture, le livre du jour Nicolas Caro. Le vendredi, c'est donc un classique ou roman culte. Ce matin, Kafka, Le Procès.
Immense roman par la symbolique, parce que sinon il est court, 200 pages, 250 pages, et tendu les pages. Ça commence donc avec une arrestation. Celle du héros, un trentenaire, Joseph K. Voici la toute première phrase du livre. Quelqu'un avait dû calomnier Joseph K. Car sans rien avoir fait de mal, il fut arrêté un matin. C'est vrai, il faut bien qu'il y ait une raison, n'est-ce pas? On ne se fait pas arrêter comme ça pour rien. Et donc, dans toute la première partie, c'est la grande question de Joseph K. Quel est le motif de son arrestation?
Et il ne trouve pas.
Et non. Les gardiens qui l'arrêtent, il ne dit pas policier, les gardiens refusent de lui dire tout en lui expliquant qu'il le saura. Il a un peu le temps de chercher par lui-même puisqu'il n'est pas emmené. Il sera convoqué plus tard. Mais c'est dingue, il ne fait jamais rien de mal, il travaille à la banque. Bon, il est fondé de pouvoir, c'est pas un crime. Sa logeuse, Madame Grubache, suggère que peut-être c'est parce qu'il a une relation ambiguë avec la voisine, Mademoiselle Burstner. Mais enfin bon, pas interdit de flirter quand même.
Mais pour l'instant, il est encore libre.
Oui, mais ça ne dure pas. Il est convoqué au tribunal pour répondre de ses crimes. Mais quel crime? Bref, il est convoqué le dimanche. Au début, ça va. Même la lettre de convocation lui dit « Dimanche pour pas interférer avec votre agenda professionnel ». Et en plus, il est libre de changer de date s'il le souhaite. Mais non, il préfère faire ça vite. Or, on ne lui dit pas quand et où exactement le dimanche. Alors il y va au tribunal, il finit par trouver un juge qui lui dit qu'il a 1h15 de retard. Bon, il ne pouvait pas savoir. Et ça continue comme ça. Et la spirale se met en place et la vie de Joseph K est peu à peu emportée. Et nous aussi, on ne sait pas trop jusqu'au bout si c'est un rêve, un cauchemar ou la réalité. Je vous laisse lire le dénouement, mais on utilise plus jamais le terme kafkaïen de la même manière quand on a lu Le Procès, un grand roman publié en 1925 après la mort de Kafka, qui avait pourtant demandé à Max Brod, son exécuteur testamentaire, de brûler tous ses manuscrits. Et heureusement, il n'en a rien fait.
Ah. Oui. Das Prozess, le procès, yeah. Donc, vous l'avez lu en allemand ou pas, non?
Non, non, en français quand même.
Franz Kafka, merci Nicolas Caro.
Je fais 5 ans d'allemand, mais je crois que je peux dire 3 mots.
Allez, musique à présent. Alors, on passe de l'autre côté de la Manche. The Cure, qui réédite leur live enregistré à Paris, octobre 1992, Omblin Roche.
Oui, The Cure existe alors depuis 15 ans. Et quand s'ouvre la décennie 90, ce groupe, né dans la campagne anglaise du Sussex, est au plus haut de sa popularité, occupe les premiers rangs du rock. Les 3 soirées de concert dans un zénith plein à craquer se déroulent 6 mois après la sortie du 9e album, le joyeux et optimiste Wish.
Dans la mélodie pop en jouée, ils ont mis de côté le rock gothique progressif, ouais, voilà, dépressif.
Oui. Dépressif un peu. Oui, cette insouciance va aller, figurez-vous, Dimitri, jusqu'à déconcerter les observateurs et les fans. Pour rappel, tout au long des années 80, on a partagé avec bonheur le spleen du leader Robert Smith, dont seule la couleur rouge de ses lèvres tranchait avec le noir de ses vêtements.
Mais il est heureux en 92, Robert Smith?
Figurez-vous que c'est exactement la question que lui pose un journaliste à l'époque. Question éludée habilement par le chanteur. Toujours est-il qu'entre avril et décembre 92, The Cure traverse les États-Unis, l'Australie et l'Europe. La tournée The Wish Tour va donner naissance à 2 albums live. Le premier, baptisé Show, reprend les morceaux du disque studio. Le second, l'inattendu Paris, est un live plus intime, plus proche de l'esprit des débuts, composé essentiellement de classiques.
Voilà, la réédition de ce live Paris est donc une nouvelle occasion de célébrer une période bénie pour The Cure.
Hein. Absolument, l'occasion aussi de dévoiler 2 inédits, 2 titres joués sur scène, pourtant mais laissés de côté pendant 30 ans. Il s'agit de Shake Dog Shake et de Hot Hot Hot. Ce double album live Paris a été remasterisé au sein des mythiques studios Abbey Road de Londres. Il est disponible pour la première fois en vinyle. De quoi patienter avant la sortie du nouvel album de The Cure, Songs of a Lost World, promis depuis 5 ans quand même.
C'est vrai que le son est génial, hein, vraiment remasterisé à merveille. Hein.
Par Robert Smith lui-même.
Ouais. The Cure, donc, qui revient donc avec ce live qui date, mais remis au goût du jour. Merci beaucoup, Blin Roche. Merci, Nicolas. Merci, les amis. Bon week-end à vous. Dans un instant, l'édito politique de Vincent Trémollet de Villers. Mais d'abord, à 7h51, le journal permanent. Nina Pavon.
Frédéric Mitterrand, neveu de l'ancien président, est décédé hier soir à 76 ans des suites d'un cancer. Emmanuel Macron salue ce matin dans un tweet un homme aux mille existences avec en fil rouge, je cite, la culture pour chacun. Le gouvernement traque les auteurs des menaces d'attentats islamistes envoyés à une vingtaine de lycées de région parisienne hier. Message faisant référence à l'État islamique accompagné d'une vidéo de décapitation. L'affaire du petit Grégory relancée 40 ans après, cet enfant de 4 ans retrouvé noyé pieds et poings liés dans la Vologne en 1984. La justice vient d'ordonner de nouvelles comparaisons ADN et de comparaisons d'échantillons de voix grâce aux enregistrements du corbeau. Du football à suivre demain soir. La France affronte l'Allemagne à 21h pour un match amical de préparation à l'Euro 2024, rencontre qui se jouera sans Antoine Griezmann, blessé à la cheville.
7h-9h, Europe 1 Matin.
L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers.
Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous.
Bonjour Vincent.
Vincent, les élections européennes, c'est dans moins de 3 mois. Toute l'Europe se prépare à un raz-de-marée populiste. Les sondages montrent une réelle dynamique de cette partie du spectre politique. Est-ce que le résultat est déjà écrit, Vincent ?
N'oubliez jamais, Dimitri, l'avertissement du grand politologue François Hollande. En matière électorale, rien ne se passe jamais comme prévu. On va donc rester prudent sur le résultat final, même si tout indique que ce scrutin sera celui des moissons de la colère, pour reprendre le titre de l'excellent livre du journaliste Charles Sapin sur les nationalismes européens. Colère contre les partis traditionnels accusés d'impuissance, colère contre une technocratie qui décourage l'initiative, entrave les libertés, impose par tous les moyens sa nouvelle morale et moralise ses nouveaux impôts, colère existentielle des classes moyennes qui payent l'addition de la pression migratoire, du déclin économique, de la dépossession culturelle et de l'écologisme fanatique. Donc oui, il est très probable que l'on assiste à une poussée populiste le 9 juin, mais il est impossible aujourd'hui d'en mesurer l'ampleur.
Est-ce qu'elle sera assez forte, selon vous, cette poussée populiste, pour bouleverser les institutions européennes elles-mêmes ?
C'est ce que tout le monde dit, ceux qui le souhaitent et ceux qui le craignent, mais on peut sérieusement en douter. Aujourd'hui, la droite que l'on appelle populiste compte 140 députés divisés en 3 groupes. Le premier, les conservateurs et réformistes européens, le groupe ECR, compte 68 élus, ils sont venus principalement du PiS polonais et du parti de Giorgia Meloni. Le second groupe, Identité et démocratie, plus radicale, comprend le RN et l'AFD, ils sont une 60aine. Enfin, un groupe de non-inscrits comprend les 13 membres du Fidesz, ce parti hongrois qui a quitté le PPE, le Parti Populaire Européen, et avec qui personne ne veut s'allier. Alors les proportions peuvent augmenter même très fortement, mais ces partis ont des trajectoires nationales propres et des convictions différentes sur des sujets de premier ordre, comme la guerre en Ukraine ou le rapport à l'Union Européenne. Le bon score des nationalistes peut couvrir temporairement ces divisions, mais à la fin, il n'y aura pas un bloc suffisamment uni et puissant pour s'imposer. C'est le paradoxe que souligne Charles Sapin à la fin de son ouvrage. Si les nationalistes remportent le scrutin, c'est la droite traditionnelle qui pourrait en récolter les fruits. Et c'est sur cette idée que s'appuie Thierry Breton, qui ce matin dans le Figaro explique qu'il n'est pas du tout évident qu'Ursula von der Leyen soit reconduite à la tête de la Commission et que les jeux sont très ouverts. Si l'on parle de Thierry Breton, on comprend que le jeu s'ouvre jusqu'à Thierry Breton.
Donc vous êtes en train de dire, Vincent, qu'il ne faut pas s'attendre à un grand renversement le 9 juin.
Je rappelle simplement qu'il faut prendre un peu de distance avec les exagérations qui nous promettent tremblements de terre et cataclysmes. L'hémicycle sera simplement plus à droite que la dernière fois. Vous savez, comme le dit Arnaud Danjean, l'un de nos députés unanimement respecté, le Parlement de Bruxelles, c'est un peu la deuxième division, c'est-à-dire que c'est âpre, ingrat et jamais retransmis à la télévision. Le quotidien d'un député, c'est négociation et coalition. Rappelons aussi que si le Parlement participe à la politique européenne, il n'est jamais le décideur unique, l'acteur décisif, ça reste le Conseil, et les États membres qui le composent. Donc, au lendemain de l'élection, Bruxelles sera toujours Bruxelles. Mais cela ne veut pas dire qu'il faudra tout continuer comme si de rien n'était. Si l'Union européenne, comme à son habitude, ne change rien, en se disant « jusqu'ici tout va bien, cela finira très mal si, par exemple, après le 9 juin, Bruxelles persiste sur son intenable pacte vert et son irresponsable politique migratoire, la conséquence, dans un avenir proche, peut être l'accession au pouvoir dans un ou plusieurs pays des 27 d'un parti nationaliste qui pourra tout bloquer en Europe. C'est même ce qui arrivera inévitablement si l'on reste sourd au dernier avertissement démocratique des peuples européens. »
L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. La une du Figaro ce matin, dédoublée entre les européennes avec cet entretien dont vous avez parlé avec le commissaire Thierry Breton et les émissions de CO2. La France dans le vert grâce au nucléaire.
Bon,
merci
de l'Europe.
Bien sûr. Bon week-end Vincent, à lundi.
À lundi.
Il est 7h56, vous écoutez Europe 1 et nous sommes le vendredi 22 mars.
Nous fêtons ce jour Sainte Léa, riche romaine qui utilisait toute sa force fortune et sa propriété d'Ostie pour regrouper autour d'elle de pieuses matrones dont elle se voulait la servante. Léa serait morte vers l'an 383. Dans la prochaine heure, avec Catherine Ney, nous ferons le bilan de la semaine d'Emmanuel Macron, l'Ukraine, Marseille, la dette publique, la boxe aussi. C'était Macron en grand sur tous les fronts, tous les rings. Aurait-il horreur du vide, le chef de l'État? On se posera la question. Olivia Grégoire est l'invité de la grande interview Europe 1 CNews dans un quart d'heure sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 22 mars, il est 8h.
Europe 1 matin.
7h-9h. Dimitri Pavlenko.
À la une, pompiers, infirmiers, médecins, tous contrôlés par les dealers à Marseille. Les professions de santé empêchées de travailler normalement par les trafiquants de drogue de la Castellane, mais aussi dans tous les quartiers nord de la ville. L'opération PlaceNet XXL, on va le voir, n'y aura pas changé grand-chose. Amérique du Sud, Italie, Marseille, voilà la route de la cocaïne qui arrive dans la cité phocéenne. Explication à suivre. Bercy savait-il que les finances publiques étaient à ce point dans le rouge? C'est ce que dénonce le rapporteur général de la commission des finances du Sénat. Après un contrôle surprise hier au ministère des Finances. Et puis nous évoquerons la disparition de Frédéric Mitterrand à l'âge de 76 ans, homme aux mille vies, passionné de la vie. Il en parlait tellement bien, c'était sur Europe 1. Le journal de 8h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Soignés sous la menace. Vous pensiez sans doute que c'était le risque des médecins, des infirmiers de guerre. Mais à Marseille, le front, c'est celui des trafiquants de drogue. Dans les cités, les dealers gardent les entrées, fouillent tous ceux qui veulent pénétrer sur ce qu'ils estiment être leur territoire. Le correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat, a recueilli les témoignages édifiants du personnel médical de l'hôpital psychiatrique Édouard Toulouse, parfois amené à récupérer des patients en crise à leur domicile. Reportage.
C'est la partie du métier la plus difficile, la plus effrayante, nous expliquent ces infirmiers quand leur ambulance s'arrête au barrage tenu par des adolescents cagoulés.
Nous on parle de checkpoint, faut montrer patte blanche, c'est-à-dire une fouille du véhicule, on nous fait sortir de la voiture, on peut nous ouvrir le coffre. Vous avez le guetteur, le chouf, qui ouvre sa veste pour mettre bien en avant qu'il est porteur d'une arme à feu. C'est pour montrer que c'est eux les patrons.
Mais passé la fouille générale, tout n'est pas gagné pour autant, selon cette autre infirmière.
C'est comme à la douane, hein, c'est une frontière, on va nous permettre d'accéder ou pas, parfois même on va nous dire, c'est nous qui allons chercher le patient, vous ne pourrez pas le récupérer de vous-même. Pour pas commander dans le bloc, on pense que nous sommes des policiers déguisés, on dérange le trafic, la clientèle.
Une dérive observée depuis une quinzaine d'années maintenant par le secrétaire général Sud Santé de l'hôpital Kader Benayed.
Il y a déjà eu des blessés, des gens qui ont été molestés, frappés. On est dans une dérive inquiétante et aujourd'hui on nous demande de prendre des risques pour aller soigner. Alors, c'est pour ça qu'on demande une prime en territoire difficile, on pourrait même l'appeler prime en zone de guerre s'il faut, mais ça devient compliqué. Quoi.
Et c'est pourquoi ces infirmiers sont de plus en plus souvent escortés par la police. Marseille, Stéphane Burgat, Europe.
Marseille, l'opération PlaceNet XXL se poursuit dans la cité de la Castellane. Objectif, mettre un coup d'arrêt au trafic de drogue.
Un trafic qui a entraîné l'an dernier une hausse de 38% des assassinats et règlements de compte en France. Les dealers ne reculent devant aucune violence pour pérenniser leurs activités. Un commerce criminel parti d'Amérique du Sud, où est produite la drogue, et qui arrive de plus en plus en Europe par l'Italie, route étroitement surveillée par les enquêteurs, William Molina.
En 2018, la police italienne saisissait 4 tonnes de cocaïne. 4 ans plus tard, 26 tonnes, soit 7 fois plus. 84% des interceptions ont eu lieu dans le sud du pays, en Calabre, où la mafia a ses quartiers. La 'Ndrangheta est très implantée dans le port de Gioia Tauro, qui concentre à lui seul 8 saisies nationales sur 10. L'année dernière, près de 3 tonnes de cocaïne y ont été interceptées dans un chargement de bananes. En France aussi, les saisies en provenance d'Italie se multiplient dans une note qu'Europe 1 s'est procurée. La police judiciaire l'écrit noir sur blanc, l'Italie est devenue une porte d'entrée majeure de la cocaïne en Europe. L'été dernier, les douaniers ont mis la main sur 16 kilos. À Narbonne et Thionville, la drogue était cachée dans des voitures immatriculées en Italie. À Marseille, près de 100 kilos ont été récemment découverts dans des bagages de ressortissants brésiliens. Ils étaient à bord de leur bateau de croisière en provenance d'Italie et faisait escale dans le port phocéen.
William Molinier du service police-justice d'Europe 1.
En France, 200 écoles se retrouvent à proximité de points de deal. Gabriel Attal, le Premier ministre, a promis hier de nettoyer les trottoirs aux abords de tous les établissements scolaires.
Le 4 avril prochain, l'ensemble des préfets, procureurs et recteurs seront reçus par leur ministre de tutelle afin que les prochaines opérations de démantèlement de points de deal veillent à sécuriser les établissements. Le Premier ministre qui a également promis hier de traquer les auteurs de menaces d'attentats contre les lycées.
Et puis cet espoir pour les parents du petit Grégory, 40 ans après le meurtre de leur fils, retrouvé ligoté dans la Vologne. Des compléments d'enquête viennent d'être ordonnés.
À la lumière des nouvelles technologies dont bénéficie la police, la cour d'appel de Dijon a effectivement demandé des analyses ADN supplémentaires et des études biométriques vocales sur les enregistrements des différents corbeaux qui se sont manifestés durant l'enquête.
Et vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h05.
À la page économie, le déficit public bien plus profond que prévu. Le gouvernement ne voulait pas dépasser 4,9% du PIB. Il semble avoir complètement dérapé.
Et oui, en attendant les chiffres précis de l'INSEE, le rapporteur général de la Commission des finances du Sénat a voulu y voir plus clair. Visite surprise hier à Bercy pour un contrôle. Et les documents consultés sont sans appel, Baptiste Morin. Le ministère s'attend à un déficit autour de 5,5% du PIB en 2023.
Quelques 20 milliards d'euros de déficit. En plus, la somme exacte sera précisée par l'INSEE mardi prochain. Mais le fond du problème, selon le sénateur LR Jean-François Husson, c'est que Bercy n'a pas anticipé. Pire, il a fait de la rétention d'informations.
Dès la fin du mois d'octobre, les services de Bercy ont senti un coup de froid sur la croissance. Au même moment, les recettes fiscales, notamment la TVA, marquaient le pas par rapport aux prévisions.
La sortie de piste du déficit obligerait le gouvernement à présenter un projet de loi de finances rectificatives au Parlement, car les 10 milliards d'euros d'économies déjà actées seraient insuffisants.
Le virage du décret qui procède à 10 milliards de coupes budgétaires n'est qu'un avant-goût amer pour la potion que va proposer le gouvernement.
Faux, répond l'entourage de Bruno Le Maire, qui assure que le ministre a réagi en temps et en heure. Une réunion entre le gouvernement et les groupes d'opposition est déjà prévue pour la semaine prochaine.
Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1.
Et ce coup de rabot dans les finances publiques se soldera-t-il par la réduction des aides aux entreprises? On en parlera ce soir sur Europe 1 à partir de 19h20 avec Patrick Martin, le président du MEDEF. Il sera l'invité de Pierre de Villeneuve dans Europe 1 soir. Le CETA, l'accord de libre-échange France-Canada sur la sellette.
Hier, en pleine crise agricole, les sénateurs communistes et républicains ont voté majoritairement contre la ratification du CETA. Depuis 7 ans, ce texte était appliqué provisoirement sans avoir jamais été soumis au Parlement. Pour le ministre chargé du commerce extérieur, Franck Riester, c'est un mauvais coup porté à notre économie.
L'actualité internationale à présent, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu à Tel Aviv aujourd'hui.
Les États-Unis tentent d'apaiser les tensions au Proche-Orient et ils vont même, et c'est une première, soumettre aujourd'hui à l'ONU une résolution appelant à un cessez-le-feu. Aviva Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Washington qui a durci le ton envers son allié israélien et son premier ministre.
Oui, au Caire, Anthony Blinken s'est pourtant voulu optimiste. Il a affirmé que les négociations menées sous l'égide du Qatar étaient encourageantes, avec l'espoir d'une libération par le Hamas de 40 otages sur les 134 encore détenus, en échange d'une pause dans les combats. Mais la frustration monte côté américain, notamment face à l'attitude de Benjamin Netanyahou. L'administration Biden, soutien indéfectible d'Israël, prend désormais ses distances en n'hésitant plus à parler de cessez-le-feu. Surtout, les États-Unis mettent en garde contre un assaut à Rafah, ce qu'a rappelé Anthony Blinken.
Il y a plus d'un million de personnes à Rafah, dont beaucoup évacués d'autres parties de Gaza. Une importante opération terrestre serait synonyme de plus de morts civiles. Il y a un meilleur moyen de gérer la menace que pose toujours le Hamas.
Ce revirement de la part des États-Unis s'explique en partie par une absence de plan clair de la part d'Israël dans cette guerre. Et puis, face à un bilan humain qui ne cesse de s'alourdir, de nombreux électeurs démocrates souhaitent que Joe Biden en fasse plus pour arrêter la guerre. Pour la première fois, les États-Unis envisageraient même de limiter l'envoi de certaines armes à Israël.
Aviva Fried.
Et puis un homme profondément cultivé et délicat. L'hommage de Nicolas Sarkozy et hier à son ancien ministre Frédéric Mitterrand, qui s'est éteint à l'âge de 76 ans.
Il portait, dit Rachida Dati, sa mélancolie comme une élégance. Emmanuel Macron salue quant à lui ses 1000 existences, toutes tissées d'un fil rouge, la culture pour chacun. Le neveu du président Mitterrand était aussi une figure du petit écran, amoureux du cinéma. Il était surtout un grand optimiste qui jusqu'au bout n'aura pas vieilli, mais bien grandi, comme il le confiait à Isabelle Morizet dans « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie » sur Europe 1 en 2012.
Je grandis en âge, malheureusement. Je vois toujours le temps que j'ai en face de moi. Voilà, il y a un certain nombre de choses que je voudrais faire. Et j'ai 2 ou 3 projets de films auxquels je tiens beaucoup et je voudrais absolument arriver à les faire. Je pense beaucoup à la brièveté de la vie. Et on a oublié de se dire que la vie est belle et qu'elle est tellement intéressante. Et que pour tous ceux qui sont dans la souffrance et la difficulté, et il faut toujours qu'ils pensent profondément que ça finit par s'arranger.
Frédéric Mitterrand, qui a lui-même été l'une des grandes voix d'Europe 1 de 1997 à 2006.
Absolument, c'est l'histoire d'Europe 1 aussi, Frédéric Mitterrand. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Restez avec nous dans un instant face à Romain Desarbres, Olivia Grégoire, la ministre des Petites Entreprises et l'invité de la grande interview Europe 1 CNews.
Europe 1 matin, 7h, 9h, Dimitri Pavlenko.
Merci d'avoir choisi Europe 1. Tout de suite, Olivia Grégoire est l'invité de Romain Desarbres.
La grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Olivia Grégoire.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Ministre délégué, chargé des entreprises, du tourisme et de la consommation. Beaucoup de sujets à aborder avec vous. Évidemment Olivia Grégoire. Tout d'abord, je voulais parler de la dette. Bercy envisage un déficit public autour de 5,6-5,5% du PIB pour 2023. C'est pas bon, la France dévisse. Qu'est-ce qui fonctionne pas ?
D'abord, il faut quand même rappeler que un budget, c'est pas gravé dans le marbre. Un budget, ça n'est pas l'étape de la loi. La France n'est toujours pas une île. Donc il y a plusieurs pays en Europe, je prends l'Allemagne par exemple, qui, en ce début d'année 2024, ont revu leur perspective de croissance, mais aussi l'ampleur possible de leur dette et de leur déficit. En Allemagne, par exemple, les perspectives de croissance ont été rabougries pour atteindre 0,2%. On est en perspective de croissance en France aux alentours de 0,7-0,8%. Donc on a une meilleure croissance. La réalité, c'est qu'on a, nous, un autre problème qui est celui de la dette et du déficit, qui est en particulier lié à je dirais, le modèle même de notre État qui est assez protecteur, mais aussi d'un État-providence qui accompagne et qui a beaucoup protégé les Français. Juste sur l'année 2023, imaginez, 45 milliards d'euros pour le bouclier tarifaire pour payer 150 à 200 euros d'augmentation sur les factures d'électricité des Français. Voilà une des raisons pour lesquelles aussi on a dérapé. On aura l'occasion d'en parler dans cette interview. Il faut regarder les choses posément. Le budget, c'est quelque chose de sérieux. Est-ce que ceux qui critiquent aujourd'hui ont été en mesure soit de proposer des pistes d'économie, soit de voter les économies qu'on a proposées? Jamais.
Pardonnez-moi, mais on est parmi les cancres de l'Europe. L'Allemagne, oui, effectivement, l'Allemagne était en récession la semaine dernière. Mais
ça n'est pas
mais
anodin.
Il y a une grande différence. Par rapport à la France, c'est que sa dette, c'est seulement 60% de son PIB, quand nous, on est à 110%.
Oui, mais vous voyez, j'imagine qu'il y a aussi des interviews en Allemagne.
Donc, ils savent encaisser les chocs.
Oui, on sait aussi générer de la croissance, voyez-vous, puisqu'on a quand même des perspectives de croissance, je le redis, qui sont 3 à 4 fois supérieures à celle de nos voisins allemands. Il faut de la croissance, il faut de l'emploi pour financer le modèle de protection sociale, pour financer notre assurance chômage, pour financer l'assurance maladie. Donc, il y a des problématiques européennes, il y a, et je veux le redire, des chocs, et ces chocs, ils sont pas que nationaux. Qui pouvait prévoir qu'on serait à 4% de taux d'intérêt avec la Banque Centrale cette année? Qui pourrait prévoir que la guerre, on s'embourberait dans une guerre longue? Qui pouvait prévoir ce qui s'est passé aussi au Moyen-Orient? Il y a eu énormément de chocs en 2023. On revoit le budget et on attend aussi, je précise, des propositions et des pistes. Moi, j'appelle à la cohérence et je le dis ayant siégé aux finances. Nous avons face à nous le RN, par exemple, qui a beau jeu d'aller sur les plateaux, mais qui jamais ne propose des pistes d'économie, et LR, qui a proposé plus de 100 milliards de dépenses. Oui, mais c'est tellement facile, Romain Desarbres, tellement facile d'aller en plateau jouer des claquettes pour pleurer et critiquer le gouvernement, quand au sein du Parlement, jamais on a voté ou proposé des pistes d'économie. Ça suffit, il faut que les Français le sachent.
Est-ce qu'il va falloir qu'on change le logiciel du budget public français? Est-ce qu'il va falloir que l'État dépense moins? Est-ce qu'il va falloir qu'on verse moins d'argent public aux Français? Est-ce que les Français sont trop habitués à ce que l'argent public tombe du ciel ou le croit-il?
Non, je n'irai pas dans ces considérations morales. On a un modèle...
C'est pas moral, c'est très économique.
Non, oui, mais... C'est pas est-ce qu'il faut que l'argent de l'État arrive moins aux Français, c'est pas tant ça. Il faut qu'on questionne la réalité de notre modèle social. On a sur certains champs de la protection sociale, de l'assurance chômage notamment, mais aussi de l'assurance maladie, on a dans les frais de fonctionnement, on a parfois des couches dans l'administration qui sont peut-être inutiles et redondantes. Il faut qu'on fasse ce travail ensemble,
mais là,
qu'on appelle de nos voeux.
C'est l'épaisseur du trait. Éric Ciotti sera l'invité du Grand Rendez-vous dimanche sur CNews et Europe 1. Il estime qu'on ne peut pas vivre toute sa vie des aides sociales. Il l'a dit dans Les Échos. Vous avez certainement lu au moins le résumé de cette interview. Vous êtes d'accord avec ça ou pas?
Mais encore, j'ai envie de dire à Éric Ciotti, qu'y a-t-il derrière cette affirmation? Qu'y a-t-il derrière ces constats?
Est-ce que vous partagez déjà ce constat?
La réalité, c'est qu'on dépense beaucoup. La réalité, Bruno Le Maire le dit aussi avec courage dans notre majorité, c'est qu'on a un modèle social qui nous coûte très cher et qu'il faut challenger, qu'il faut questionner pour pouvoir continuer à rembourser l'essentiel. Vous savez, on découvre pas qui a porté la réforme de l'assurance chômage. Qui s'est fait taper pendant des mois sur la réforme des retraites? Qui? Combien ont ramené au budget de l'État, Romain Desarbres, ces deux seules réformes portées par l'ancienne première ministre Elisabeth Borne? Combien? 30 milliards d'euros. Où était les LR? Où était le RN à part à faire des claquettes sur les plateaux? Qui nous a soutenus pour aller chercher en deux réformes 30 milliards d'euros d'économie? Pas grand monde.
Je voulais vous parler également de l'accord CETA, accord de libre-échange. Les sénateurs ont dit non. Quelle est votre réaction? C'est un accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada. Est-ce que c'est la fin de la mondialisation heureuse?
J'entendais votre édito intéressant juste
sur
avant.
CNews.
Bien sûr, juste avant d'intervenir. Je crois que c'est un mauvais procès fait à un bon accord. Et j'écoutais un petit peu plus tôt chez un de vos confrères, Étienne Jernel, qui disait, je veux citer sa parole, que c'était le triomphe du rabougrisme. Je crois vraiment que ce qui s'est passé hier au Sénat, qui est une chambre que je connais bien, qui est une chambre qu'on appelle la haute chambre, la chambre des sages, est un mauvais coup politicien. Que la droite et l'extrême gauche s'allient pour casser un accord qui a quand même permis à nos exportations d'augmenter de plus de 30%, qui a permis, et je suis la ministre des entreprises, à nos fromagers, à nos producteurs de fromage, à nos artisans d'augmenter de 60% nos exportations depuis des années, c'est le CETA. Donc en réalité, je crois que c'est un mauvais coup politicien et sachez que nous allons continuer à nous battre.
C'est les agriculteurs qui ne comprennent pas cet accord? Ils se trompent quand ils sont contre?
Oserais-je dire que c'est aussi des acteurs politiques qui, sur le dos de la crise agricole et des doutes qu'on peut avoir à l'aune de la mondialisation, décident aussi de bloquer un accord qui est clairement, au plan économique, favorable à la France? C'est une instrumentalisation d'un sujet économique important pour nos entreprises dans un moment où il ne vous a pas échappé non plus qu'on est en élection européenne. Donc c'est véritablement un bon accord, mais rejeté pour de mauvaises raisons. Le chemin n'est pas terminé, il faut le dire aux Français. Il y a aussi des débats à l'Assemblée qui se profilent pour que nous puissions poursuivre le débat et démontrer qu'il y a des accords. Il faut casser les clichés. Il y a des accords avec des clauses miroirs où on peut être gagnant. Celui-ci en fait partie.
Les élections européennes, vous êtes la ministre donc des entreprises. Mardi et mercredi dernier, Jordan Bardella était à la rencontre d'associations du monde de l'entreprise et des patrons, des représentants des patrons. Comment est-ce que vous jugez les propositions économiques du RN?
Absente. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent peuvent faire l'effort d'aller sur le site Rassemblement National, ce que je fais fréquemment. Vous avez 22 livrets thématiques assez détaillés, d'ailleurs, de propositions. Je suggère à vos auditeurs de chercher le livret sur l'économie. Il n'y a pas aujourd'hui de perspective, de cap, de vision. D'ailleurs, Jordan Bardella, ça n'est pas moi qui le dise, mais les patrons qui étaient à cette réunion, a été très évasif, a fait d'ailleurs des erreurs sur des lois que j'ai portées. En réalité, quand j'ai écouté ces paroles, parce que j'écoute ce que disent les oppositions, je me suis dit, c'est tellement facile de dresser des constats, Romain Desarbres. Si je vous dis un stylo, ça sert à écrire, on est d'accord? Si je vous dis l'économie, ce sont avant tout des entreprises, on est d'accord? Qui peut être contre ces poncifs? Ça a été 2 heures de poncifs truffé d'erreurs. Y a-t-il l'ombre d'une proposition?
Il dit qu'il veut produire en France.
Merci.
Qui
protéger a ramené de l'industrie
en France?
Et permettre,
rendre l'économie et l'entrepreneuriat plus facile.
Bah oui. Bah c'est intéressant. La question, c'est pas à quoi, c'est comment? Qui a ramené aujourd'hui plus de 100 000 emplois industriels dans ce pays? Qui a fait en sorte depuis 5 ans que ce soit en France que les investisseurs viennent plus qu'ailleurs en Europe pour investir? Qui a fait baisser le chômage? Qui a baissé? Vous savez, c'est pas toujours facile d'être au pouvoir depuis 7 ans, je vous l'accorde. Mais ça a un avantage d'avoir un bilan, ce qui nous permet des perspectives. Ça bloblote, ça papote avec Jordan Bardella. Qui a baissé de 26 milliards d'euros au précédent quinquennat les impôts des entrepreneurs? Je fais des déplacements toutes les semaines. Ils le voient bien, les entrepreneurs, qu'on a fait passer le taux de leur imposition de 33 à 25%. On l'a financé, on l'a fait. Que propose Jordan Bardella? À part des poncifs, il n'y a pas l'ombre d'une proposition.
Alors, il est autour d'une trentaine de pourcents d'intention de vote aux européennes.
Ce que je dis sur l'économie est important, et je crois que les petits patrons ne s'y trompent pas. Quand on lit le programme de Marine Le Pen et Jordan Bardella, du moins ce qu'on arrive à en déduire, puisque je rappelle qu'il y a très peu de lignes, deux, trois propositions.
Mais dans les arguments de campagne de votre camp, donc Renaissance...
Bah, un argument de campagne, en voilà un.
L'un des principaux arguments de campagne, c'est un vote, si on vote pour Renaissance, c'est un vote anti-RN. C'est limité, ça semble pas fonctionner, ça fait pas reculer les intentions de vote pour Jordan Bardella.
Moi, je crois qu'il faut déjà voter pour la majorité, parce que nous portons... une envie d'Europe, nous portons une vision d'Europe et nous portons aussi accessoirement...
On a que du Rassemblement National.
Vous voyez, j'ai parlé d'autres acteurs.
En l'occurrence, c'est moi qui vous ai questionné dessus.
Je m'ai pas permis de le dire, mais moi, ce que je veux redire sur les entreprises, parce que je veux pas qu'on ferme ces débats trop rapidement. On va prendre un exemple, faut être précis quand on parle d'économie. Dans son programme à Marine Le Pen, par exemple, elle dit... on va nationaliser les autoroutes. C'est 40 à 50 milliards d'investissements publics. Et moi, je regarde la colonne recettes. Qu'y a-t-il? Où est-ce qu'elle trouve l'argent, Marine Le Pen, pour financer ces actions-là? Elle a des choses assez floues sur les étrangers, la fraude. Ça rapporte à peu près 30 milliards d'euros. Vous voyez, juste avec une mesure, nationaliser les autoroutes, le budget de Madame Le Pen ne tient pas. Il faut le dire aux gens. Il faut être précis pour revenir aux européennes. Vous savez... je lisais aussi ce que disait Jordan Bardella, qui surfe et qui s'appuie très lourdement sur les sondages. J'ai un peu d'expérience, c'est l'avantage de l'âge. On va d'abord faire campagne avant de me dire que c'est perdu. On va d'abord faire campagne avant de m'expliquer que la majorité est condamnée. Il nous reste 3 mois. Je peux vous dire qu'on va se déployer partout, que des idées on en a, et surtout contrairement à eux, nous sommes présents, nous sommes là au Parlement européen. Leurs absences et leur vacuité en termes idéologiques se voient au Parlement. On va se battre.
Olivia Grégoire, invitée de la grande interview, ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation sur CNews et sur Europe 1. Vous avez indiqué cette semaine, Olivia Grégoire, dans Les Échos, vouloir lutter contre les retards de paiement qui fragilisent la trésorerie des PME. Pour ça, vous allez doubler les plafonds des amendes et aussi faire ce qu'on appelle du name and shame. Vous allez nommer
On le fait déjà, il faut le faire plus.
Que la honte soit sur ceux qui payent pas leurs factures.
Moi, il y a un sujet que j'aime, c'est la transparence. Dire les choses, c'est pas de la honte que je cherche à procurer, c'est de la transparence. Il y a des mauvais joueurs, il y a des mauvais payeurs. Et vous savez quoi? Quand il y a une vingtaine d'années, on disait au football, c'est toujours la même histoire et c'est l'Allemagne qui gagne à la fin. Bah, vous voyez, dans les délais de paiement, c'est un peu la même histoire. C'est toujours les PME qui sont les dernières à être payées et les premières à payer. Et les PME, c'est 99% de nos entreprises. Combien y a-t-il d'argent dans la nature à cause de ces retards de paiement? Il y a un peu plus de 15 milliards d'euros dans la nature que nos PME n'ont pas sur leur compte en banque. C'est un scandale. Et en réalité, ce sont bien souvent les grands acteurs qui jouent de ces délais de paiement.
Et les PME
donc,
sont bien plus fragiles.
Mais bien évidemment, nous avons aujourd'hui, et c'est pour ça que je suis en colère, nous avons aujourd'hui des défaillances de toutes petites entreprises dans des secteurs, je pense au bâtiment, à la construction, qui tombent parce que elles ne sont pas payées en temps et en heure. On ne l'accepte pas quand on est banquier de voir une TPE qui ne rentre pas les rémunérations de ses factures. On a des entreprises qui tombent. C'est un sujet de responsabilité et d'égalité économique. Donc, avec Bruno Le Maire, on ne s'interdit rien. Et on envisage effectivement de renforcer les sanctions fortement dans les mois qui viennent. Et puis d'élargir aussi le spectre de ceux qui doivent être transparents. Les entreprises, c'est bien. Les collectivités territoriales ont le droit aussi d'être transparentes. C'est même la loi. Et donc, d'ici au 15 avril, avec Bruno Le Maire, nous leur avons écrit en fin d'année dernière, elles devront publier leur délai de paiement pour les collectivités territoriales de plus de 3500 habitants. Et c'est bien la moindre des choses.
Avant 2024 et les JO qui vont attirer des touristes en France, vous pouvez déjà nous annoncer ce matin que l'année 2023 est une année record pour la France en termes d'attractions touristiques. Quels sont les chiffres? Les touristes reviennent en France?
Oui, Et merci, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles.
Ça
vous
redonne le sourire, là.
Bah non, mais
les auditeurs d'Europe 1,
et,
oui.
Et il y a la France qui gagne, il y a la France qui bataille, mais il y a aussi la France qui gagne. Ouais. Chapeau aux acteurs du tourisme.
Combien?
Je ne fais que les accompagner. Oui. 63 milliards de recettes internationales. On était aux alentours de 58, 59 milliards l'an passé. C'est plus 12%. Je remarque plusieurs choses que je partage avec vous. 8 Français, plus de 8 Français sur 10 qui ont fait le choix de partir en vacances sont partis en France. Plus de 50% ont consacré un budget sur les vacances d'hiver supérieur à celui de 2022. Et la très bonne nouvelle, il y en a deux. Un, le retour des clientèles chinoises et américaines, notamment la clientèle chinoise plus 900% par rapport à l'an passé, aussi parce que les vols ont repris évidemment et que l'étau du Covid s'est desserré en Chine. Et en perspective, dans les semaines qui viennent et mois qui viennent, avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, plus 6% d'arrivées aériennes prévues dans les 6 prochains mois, ce qui nous laisse présager de nombre de visiteurs dans notre beau pays pour cet événement mondial.
La ville de Paris est sale, on attend les JO. Est-ce que Paris sera prête ou pas?
Je croyais que vous alliez me demander si Paris sera propre.
Propre et prête.
Si je faisais comme le Rassemblement National, je décréterais sans rien proposer. Mais c'est pas ma tasse de thé.
Et quand vous vous promenez dans la capitale, vous vous dites tiens, ça y est, on est prêt à recevoir dignement les.
D'abord, je me promène assez peu. Je vous cache pas que mon agenda.
Même en voiture ou bon.
Bon. Paris est comme elle est. Moi, à 3 mois de l'événement, j'ai une autant j'ai eu des critiques et vous connaissez, vous connaissez, je parle là dent dure à l'endroit de la maire de Paris. Là, soyons clairs, on est à 3 mois de l'événement. Tous ensemble, tous unis, il faut qu'on réussisse. C'est pas le temps des anathèmes, c'est le temps de la préparation. Il est midi moins 10, c'est demain les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et je crois qu'il y a aussi une question d'humeur, d'état d'esprit. On a nos faiblesses, on a nos forces. Paris est pas toujours la plus propre, je suis la première à le dire. Paris peut être la plus belle au monde. Jamais dans l'histoire des Jeux Olympiques, on a fait une cérémonie d'ouverture sur un fleuve. 2000 ans d'histoire que la France va honorer. C'est la première fois qu'on aura une cérémonie sur le fleuve qui est notre Seine. On peut aussi avoir des moments formidables. J'ai envie de penser à ça. Et je pense que les Français sont dans le même état d'esprit. Ils seront nombreux à rester à Paris, notamment les Franciliens, dans les études que nous faisons pour profiter de cet événement. Et on n'est pas à l'abri que ce soit un grand moment pour ce pays.
On n'est pas à l'abri que ça se passe bien, effectivement.
Et, oui.
et je pense que tous les Français qui aiment leur pays le souhaitent.
Et on n'est pas à l'abri d'avoir des médailles et d'avoir...
À propos des JO, une dernière question, une réponse rapide s'il vous plaît. C'est une provocation supplémentaire d'Emmanuel Macron, dit Marine Le Pen, interrogée au sujet d'Ayane Nakamura qui chantera lors de la cérémonie d'ouverture. Vous-même, vous avez chanté lors de la Journée internationale du droit des femmes, du Clara Luciani.
C'était
d'ailleurs
pas la cérémonie d'ouverture et c'était spontané. Vous voulez une réponse rapide?
Oui.
J'ai pas envie de commenter ça. Voilà. Ayane Nakamura, 500 millions de personnes dans le monde l'écoutent. Ça fait des semaines qu'on en parle. C'est une artiste. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est pas mon sujet. Les postures qui sont pas étonnantes de Madame Le Pen sont les siennes. Avançons, arrêtons d'en parler. C'est une grande artiste. Et laissons les jeux se préparer.
Merci beaucoup Olivia Grégoire, bonne journée à vous.
Merci.
C'était votre grande interview sur CNews Europe 1.
Merci Romain Desarbres et Olivia Grégoire. Dans un instant, vos signatures Europe 1 du vendredi. Eugénie Bastier, Olivier Delagarde et Catherine Ney, bien sûr. A tout de suite.
7h, 9h, Europe 1 Matin.
Voici venu vos signatures Europe 1 du vendredi. Dans un quart d'heure, le zapping politique de Dimitri Vernet avec Eugénie Bastier. On se penchera sur notre besoin de héros à 2 jours de l'anniversaire du sacrifice d'Arnaud Beltrame. La revue de presse d'Europe 1 arrive également dans un instant avec Olivier Delagarde. Mais d'abord, comme tous les vendredis sur Europe 1, Catherine Ney est avec nous. Bonjour Catherine.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous.
Catherine, quelque chose vous a frappé cette semaine. C'est combien le président Macron est en grande forme?
Oui, je ne suis pas la seule à l'avoir constaté. C'était flagrant lors de la cérémonie d'hommage à l'amiral de Gaulle dans la cour des Invalides. Oui, il avait rajeuni. Une sorte de contentement nimbait son visage, plus arrondi, alors qu'il lui arrive d'avoir les traits tirés quand il parle 14 heures durant, comme au salon de l'agriculture par exemple. Là, il change de tête, ses joues passent derrière les oreilles, le profil se fait plus aquilin, il est autre. Il est un homme exténué. Mais mercredi, le ciel était bleu au-dessus des Invalides et l'acteur était au sommet de son art. Perfection de la mise en scène, marche lente, menton levé, silhouette droite, musculeuse et svelte. Un discours prononcé cette fois sur un ton sobre et non religieux, comme cela lui arrive parfois. Vous savez, son registre archiprêtre de la chapelle Sixtine. Mais l'on sentait aussi qu'il y avait un plaisir d'être soi, qui venait d'autre chose.
Mais de quoi donc?
Mais vous savez, le président est quasi chaque jour en première ligne. Il se montre, parle sur tous les sujets. Et les ministres sont tétanisés comme privés d'oxygène. Évidemment, cet activisme est lié à ce qui est pour lui une tragédie. l'impossibilité politique de survivre après 2027 puisqu'il ne peut pas se représenter. Alors plus il se rapproche de l'échéance, plus il s'exalte et répond présent à tout. Encore 5 minutes, monsieur le bourreau du temps qui passe. Emmanuel Macron a été réélu sans programme. Il en avait un, mais on ne l'a pas su parce qu'il n'a pas fait campagne. On a juste su que sa proposition de retraite à 65 ans. Réélu, que faire sans majorité? Pas de projet. Mais là, il y a un fait nouveau désormais. Pas de projet, mais un objectif qui cette fois le transcende. Un rôle premium qu'il s'est lui-même créé. Être le lanceur d'alerte sur les dangers à venir si l'Ukraine s'effondrait. Il a bousculé ses homologues européens, mais son rien n'est exclu, qui les avait tant choqués, sous-entendu des troupes au sol, a provoqué un débat dans tous les pays européens. Et voilà que la lucidité commande d'être pessimiste. Aujourd'hui à Bruxelles, Conseil de guerre de l'Union européenne, il n'y est pas pour rien. Oui, il faut préparer la guerre pour faire la paix. Aucun de ses prédécesseurs n'a été confronté à ce péril-là. Et cette conjoncture, peut-être tragique, fera peut-être de lui qu'il laissera un nom, une trace dans l'histoire.
D'où sa grande forme, dites-vous Catherine, et il le montre avec une photo diffusée sur les réseaux sociaux, lui en train de boxer.
Ah oui, une photo superbe en noir et blanc, comme le film Raging Bull avec Robert De Niro, un des meilleurs films sur la boxe. Et lui, le président, visage déformé par l'effort, en tapant sur le sac de frappe, muscles saillants. Un message à Poutine, sûrement, vient donc me chercher. Mais vous l'avez compris, ce n'est évidemment pas une photo volée.
Alors Emmanuel Macron en forme, mais il s'inquiète tout de même des déficits qui dérapent. Les agences de notation risquent de dégrader la note française, d'où une réunion puis un dîner à l'Élysée.
Oui, enfin, il s'inquiète, mais pas trop. Alors, d'ailleurs, ses commensaux l'ont attendu jusqu'à 21h45. Il est toujours en retard. Alors, le président est-il un dépensier? Oui, il se promène rarement sans son carnet de chèques. C'est son côté socialiste, ironise un conseiller de Bercy. Mais alors, où en est la France? Entre 2017 et 2019, les finances publiques étaient rétablies autour de 3%. Mais arrivent les gilets jaunes, coûtent 16 milliards d'euros. Le Covid et le quoi qu'il en coûte, coût global estimé 400 milliards d'euros. La guerre en Ukraine, avec la crise énergétique, plus de 80 milliards de boucliers tarifaires. La France a été le pays le plus généreux. Arrêt du bouclier fiscal, cri d'orfraie de l'opposition, mais il a fallu aussi contrer les méfaits de l'inflation, d'où encore des dizaines de milliards d'aides. Comment sortir de la perfusion étatique quand il y a tant de Français qui en profitent et en exigent? Bon, 10 milliards de réduction sont déjà actés, c'est peanuts, il en faudrait 20 milliards, a dit le président lors du dîner. Mais en réalité, aucune décision n'a été prise. Sans mot d'ordre, pas de panique à la veille des élections européennes. Mais comme c'est étrange, Bruno Le Maire vient de publier un livre, « La voix française », où il fustige l'État-providence et milite pour une plus grande rigueur économique. On s'interroge, un vœu pieux ou une pique en douce au président?
Merci beaucoup Catherine Ney. Je vous aurais bien écouté encore 5 minutes de plus, très volontiers.
Bon,
merci.
Ben, je reviendrai.
Quand vous voulez. Et en tout cas, c'est une certitude vendredi prochain. Voilà. Merci beaucoup Catherine, on vous souhaite une bonne semaine. Olivier Delagarde prend le relais, sa revue de presse dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 matin, 7h, 9h. Dimitri Pavlenko.
Du vendredi au dimanche sur Europe 1 pour faire le point sur toute l'actualité sportive. Ne manquez pas le studio des légendes.
Oui, le programme s'annonce chargé pour Jacques Vendroux et ses invités qui ce soir parleront foot. On va revenir sur les derniers matchs de préparation de l'équipe de France. C'est ce soir, on viendra sur l'absence d'Antoine Griezmann. Et puis surtout, demain, émission exceptionnelle avec le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps et Adrien Rabiot qui racontent sur Europe 1 comment les Bleus peuvent terminer au sommet de cette compétition. Le studio des légendes, c'est votre rendez-vous sport sur Europe 1 du vendredi au dimanche de 20h à 21h.
Conto, le compte pro qui simplifie toutes vos finances, vous présente la revue de presse.
La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde, ce matin.
Bonjour.
Vous nous parlez de tricheurs.
Oui, tricheurs, bidonneurs, bidouilleurs, bonimenteurs. Appelez comme vous voulez, Dimitri. Ils se bousculent au portillon ce matin. Première sur la liste, l'éducation nationale. C'est le Figaro qui s'est procuré une note confidentielle des services du Premier ministre qui révèle les vrais taux de réussite au brevet des collèges. Vous pensiez que les copies de vos chers bambins étaient uniquement corrigées par les profs? Eh bien non, elles sont ensuite redressées par les recteurs d'académie. C'est, paraît-il, un vieil usage, explique Caroline Beyer. Ils peuvent rajouter parfois un point à l'ensemble des élèves lorsqu'ils constatent une trop grande différence avec l'année précédente. Mais là, ce n'est plus de la correction, c'est de la science-fiction plus 4 points dans les académies d'Aix-Marseille et Limoges, plus 5 points à Nice, plus 6 à Créteil. Alors pourquoi ce bidonnage XXL ? Eh bien derrière, il y a l'idée de ne pas porter la honte sur certains territoires, estime un bon connaisseur du système. Soit dit en passant, c'est curieux cette note de Matignon qui fuite et qui va mettre en difficulté l'éducation nationale. Si on avait mauvais esprit, on pourrait croire que les relations ne sont pas bonnes entre Attal et Belloubet.
L'autre bidonneur du jour est à Bercy.
Le Pinocchio du ministère des Finances, parce qu'hier, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a effectué une visite surprise à Bercy. Tout le monde main en l'air, on ne touche plus à la broyeuse de documents. Jean-François Husson a exigé les notes de la direction du Trésor au ministre. Vous lirez ça dans l'Opinion, notamment. En conclusion, Bruno Le Maire, qui a joué la surprise, était parfaitement au courant, dès la fin de l'année dernière, de la dégradation des comptes publics, ce qui ne l'a pas empêché de tabler sur des taux de croissance et de dette totalement fantaisiste.
Alors au rayon des grands tricheurs de la semaine, il y a aussi Vladimir Poutine.
Entre 22 et 31 millions de bulletins auraient été falsifiés lors de la dernière présidentielle.
Wow.
Chiffre évidemment invérifiable, contesté, mais qui émane d'observateurs indépendants, dont Le Parisien. Commentaire de l'ancien ambassadeur de France à Moscou, Jean Glinasti, qui s'étonne. Il est clair que Poutine a mis le paquet. Cela dit, la présidentielle est généralement en Russie moins truquée que les législatives.
Ah ben voilà qui est rassurant. Que peut-on lire d'un peu moins faux ce week-end, Olivier ?
La revue des deux mondes, Dimitri. Ce mensuel vous propose un remarquable dossier sur les bastions du wokisme. Vous vous émerveillez devant les tableaux de Gauguin, vous écoutez Béa, la flûte enchantée ou Andromaque. Eh bien, vous ne devriez pas, explique ironiquement Aurélia Julia. Gauguin est un affreux colonialiste, Mozart un raciste. Quant à Racine, en se glissant dans la peau d'une femme, le dramaturge a versé dans l'usurpation. Bref, la revue des deux mondes qui vous offre un vaste panorama de la folie woke. À propos de wokisme, l'Obs, anciennement Nouvel Observateur, anciennement France Observateur, fait un pari fou. Il change de nom. Plus exactement, il reprend le nom de Nouvel Obs cette semaine, espérant peut-être retrouver ses lecteurs perdus. Et pour ce numéro de reconquête, un grand dossier sur la jeunesse avec en couverture, je vous le donne en mille, François Hollande, qui aura 70 ans cette année, on prédit déjà des records de vente. D'un ex à l'autre, ne manquez pas, en revanche, le dossier remarquable du Figaro Magazine sur Pompidou, dont on s'apprête à commémorer le 50e anniversaire de la disparition. En ce temps-là, l'économie était florissante, rappelle Éric Neuhoff. Le sentiment de liberté était partagé par tous. Comment ne pas se souvenir avec une pointe de nostalgie de ce président paysan matois à qui le smoking allait si bien. Mais on va terminer en blouse blanche, si vous me le permettez, parce qu'il nous faut revenir à l'affaire de la semaine que nous avons déjà évoquée dans cette revue de presse. Mais depuis qu'Olivier Véran nous a annoncé qu'il allait se lancer dans la médecine esthétique, la polémique ne dégonfle pas. De toute façon, quoi que je fasse, il y aurait eu des critiques, se défend l'ancien porte-parole du gouvernement dans Le Parisien. Et d'expliquer que cette semaine, il a notamment accompagné des confrères devant traiter un abdomen affaissé chez une jeune maman. Là, on se dit un instant qu'en fait, la chirurgie esthétique, c'est hyper crucial, mais le journal a eu la mauvaise idée d'aller regarder le site de la clinique. 50% de ses patients ont moins de 35 ans. On y traite surtout des augmentations mammaires, des liposuccions ou des phalloplasties. Je vous vois ouvrir des yeux ronds, Anissa.
Je sais ce que c'est.
C'est une opération pour augmenter la taille de son pénis, oui. Je sais ce que vous pensez. Encore une façon qu'ont trouvé les hommes de tricher un peu avec la réalité.
Et voilà, la boucle est bouclée.
Vous savez ce que je pense souvent, Olivier.
Merci Olivier Delagarde, la revue de presse d'Europe 1.
C'était la revue de presse avec Conto. Un compte pro et des outils adaptés aux PME pour la gestion des dépenses, la facturation et la comptabilité. Conto, c'est le compte pro qu'il vous faut.
Ah, chirurgie esthétique, l'art du maquillage dans les ministères.
La liposuccion, c'est la première opération au monde. C'est l'opération qui est la plus pratiquée dans le monde entier, la liposuccion. C'est exceptionnel.
Et la liposuccion budgétaire, vous connaissez aussi ?
Ça marche moins bien. C'est l'opération qui est la moins pratiquée, celle-là, au monde, et notamment en France. Donc ça n'existe pas, la liposuccion.
Bon, est-ce qu'on en parle ce soir, tout à l'heure, 11h, 13h, sur
Europe
1 ?
Oui, parce que moi, c'est plutôt le matin, comme vous le savez. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
On va parler de Frédéric Mitterrand, évidemment, parce que c'est une pluie d'hommages depuis hier soir, et tous ceux qui l'ont connu, effectivement, saluent son intelligence.
Vous l'avez croisé, Pascal, dans votre carrière ?
Souvent, oui, très souvent, et il est venu sur notre plateau, et puis on pouvait textoter ensemble. Moi, en fait, il incarne un monde d'hier, c'est-à-dire qu'il y a de la distance, il y a de la dérision, il y a de l'humour, il y a de l'intelligence, il y a de la culture. tout ce qui semble avoir parfois disparu dans le monde de la nuance.
Vous vous rappelez quand on parlait du cinéma japonais, de Kenzo Mizoguchi sur TF1
En 1981, moi j'avais 17 ans, la télévision est révolutionnée, il y a Pollack qui arrive... Et il y a Frédéric Mitterrand, le lundi soir, c'était une émission qui s'appelait Étoile, étoile, qui permettait de parler du cinéma différemment la simple promotion.
Et il y a la mauvaise réputation aussi de Frédéric Mitterrand, qui lui collait au basque depuis une quinzaine d'années.
Il l'avait écrit
aussi,
dans La mauvaise vie. Et il y a d'ailleurs Marine Le Pen qui avait dit des choses épouvantables sur ce livre, La mauvaise vie, puisque effectivement, il parlait de la prostitution, il parlait de ce à quoi il avait eu recours en Thaïlande avec des jeunes garçons, et il l'écrit noir sur blanc.
Autre sujet dont vous voulez parler avec les auditeurs d'Europe 1, Pascal, peut-être?
Alors, on pourra parler, ça c'est formidable, une proposition de loi pour sanctionner les discriminations capillaires.
Ah oui, nous en avons parlé
Moi,
avec
je trouve ça formidable.
Emmanuel Ducrot cette
semaine. Je trouve ça formidable, pourquoi? Parce que, évidemment, il y a des métiers où tu ne peux pas être coiffé n'importe comment.
Oui.
Mais comme les droits individuels aujourd'hui sont plus forts que tout, ben on imagine, quand t'es journaliste par exemple, moi je peux pas arriver avec les cheveux rouges.
Ah oui, ça vous
dirait
bien.
Parce que les gens ne vont regarder que les cheveux rouges. Oui. Il y a une forme de neutralité dans certains métiers où tu dois être, tu dois passer sous les fourches codines d'une certaine manière de l'emploi que tu as.
Mais est-ce qu'il faut une loi pour ça? La décence commune, je veux dire, tout le monde sait repérer quelqu'un qui a les cheveux sales de quelqu'un qui a les cheveux propres.
Ah, c'est
propres.
Pas les cheveux sales.
Oui.
Là,
bah, ça va jusque là. Hein.
Non, c'est les droits individuels. Non, c'est quelqu'un qui dit j'ai les cheveux rouges et je veux être, je veux travailler comme représentant en confiture ou pas.
Bon.
Et son employeur dit, mais que vont penser les clients qui vont voir quelqu'un arriver en cheveux rouges? Donc c'est des questions, chacun a un avis.
Avec des dreadlocks.
Ou des dreadlocks, bien sûr.
On en débat tout à l'heure.
Et dans le temps, tout cela ne posait pas de soucis.
Et la chevauphobie aussi.
Alors, la chauvophobie, c'est encore autre chose. Moi, je ne connais pas de chauvophobe.
C'est une discrimination
capillaire. Vous connaissez des chauvophobes?
Vous pourrez s'en plaindre, il y a certains raisons pour s'en plaindre.
Bon, je ne sais pas si changeons de sujet.
Olivier Delagarde, une réaction peut-être?
Je n'ai jamais rencontré de
chauve.
On vous attend sur l'antenne d'Europe 1 de 11h à 13h avec vous, Pascal Praud. Le numéro, Anissa Dadi.
01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, 11h 13h, Pascal Praud et vous.
Et dans 10 minutes aussi pour l'heure des pros sur CNews et sur Europe 1. Tout à l'heure, Pascal, Eugénie Bastier, on vous retrouve tous les vendredis ce matin, Eugénie. Vous souhaitez faire un pas un petit peu hors de l'actualité pour nous parler de la figure du héros aujourd'hui.
Oui, parce qu'il y a 6 ans, le 23 mars 2018, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame donnait sa vie en échange d'une otage au Super-U de Trèbes. Face à ce sacrifice d'un autre âge, ce geste héroïque, l'émotion avait saisi la France entière. Quelques années plus tard, à Paris, une plaque commémorative en l'honneur de Beltrame avait été rédigée ainsi. Assassiné lors de l'attentat terroriste du 23 mars 2013 à Trèbes, victime de son héroïsme. Victime de son héroïsme. C'était des mots maladroits, évidemment, corrigés depuis, mais qui témoignent de l'incapacité que nous avons désormais à distinguer entre le héros, catégorie en voie de disparition, et la victime, catégorie en voie d'explosion. Depuis 2016, il existe même une médaille de reconnaissance des victimes de terrorisme, qui arrive protocolairement, apprend-on, avant la croix de guerre,
ah bon,
puisqu'elle est décernée par le président de la République en personne. Cette distinction oxymorique abolit désormais la différence entre héros et victime. Aux victimes, la patrie reconnaissante, telle est la devise écrite désormais au fronton de la modernité. Alors certains y verront un progrès de civilisation, d'autres regretteront les hiérarchies d'antan.
Mais alors, c'est une chose de le constater, mais comment en est-on arrivé à ce retournement entre héros et victimes?
Mais justement, c'est tout l'objet du livre de François Azouvi, du héros à la victime, la métamorphose contemporaine du sacré. Il explore les différentes étapes de cette mutation anthropologique sans précédent. Alors l'historien parle de la grande guerre de 14-18. À l'époque, c'est l'apothéose du modèle héroïque. C'est Charles Péguy, mort une balle dans le front, après avoir écrit cette phrase qui pourrait choquer aujourd'hui « Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle ». Il montre comment l'hécatombe des tranchées a délégitimé ce modèle. Le soldat n'est plus un héros, et bientôt, dans la mémoire collective, on lui préférera le mutin et le fusillé. Mais c'est surtout la Seconde Guerre mondiale et l'horreur vertigineuse et insondable du génocide juif qui a fondé cette figure de la victime devenue omniprésente. Dans les années 70, explique-t-il, vient le temps de l'emballement. La dynamique victimaire n'a plus de contrepoids. Elle s'engage dans une frénésie sans limite. La victime prend toute la place. Me too. Moi aussi, je suis une victime, est devenu le cri de notre époque. Et moi, et moi, et moi, chacun veut sa place sur le podium de la concurrence victimaire. On ne recherche plus l'honneur, mais la compassion. Je souffre, donc je suis, comme le dit Pascal Bruckner dans son dernier livre.
Aujourd'hui, Eugénie Bastier, il n'y a plus de héros dans notre société.
Eh bien, hier, nous avions les saints, les soldats, les aviateurs de l'aéropostale. Aujourd'hui, nous avons la performance sans risque des footballeurs et l'audace égoïste des start-upers. Et pourtant, jamais nous n'avons eu autant besoin de héros, parce qu'on a besoin de ce qui nous manque, justement. Plus la victime règne dans le présent, plus nous cherchons des héros dans le passé. En témoigne l'esprit de commémoration qui règne dans notre pays. Emmanuel Macron ne cesse de rendre hommage à des héros disparus, de Manouchian à Philippe de Gaulle. De Gaulle, justement, avait fait rentrer une personne au Panthéon en 11 ans de règne. Macron en a fait rentrer 6 en 7 ans. Le président, d'ailleurs, l'avait dit en 2017. Notre société a besoin de récits collectifs, de rêves, d'héroïsme. Le diagnostic était bon, mais malheureusement, l'héroïsme ne se décrète pas. On ne retrouvera pas ce régime de l'héroïcité par quelques paroles bravaches, car celui-ci était intimement lié à la transcendance. Sans croyance collective, dans un dieu, une patrie, un destin commun ou dans l'histoire, il y a du courage individuel, mais il n'y a plus d'héroïsme. D'ailleurs, Arnaud Beltrame avait la foi. Ce n'était pas un hasard.
À méditer. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie. Il est 8h53.
7h, 9h. Europe 1
et
matin.
Voici le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet.
Bonjour à tous. Rappelez-vous, mardi à l'Assemblée, le ministre de l'économie Bruno Le Maire disait ceci.
Nous rétablissons fermement, calmement et sereinement les comptes publics.
Fermement, calmement et sereinement. Compris ? Eh bien, le Sénat a décidé de vérifier. Contrôle surprise hier à Bercy. Résultat de l'interro donné par Jean-Philippe Husson.
Je confirme qu'à ce stade, les services de Bercy prévoient un déficit à 5,6% du PIB, soit 0,7 points de plus que les prévisions.
Oula, oui. Bon, c'est un bon zéro pointé, ça, qu'on a voulu cacher en plus de ça. Il doit moins faire le fier, Bruno.
C'est d'une certaine manière une gestion budgétaire calamiteuse du gouvernement.
Aïe, 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 la théorie de François-Xavier Bellamy sur France Info était donc vraie.
Ceux qui avaient vu en lui le Mozart de la finance ne peuvent que constater qu'il est en réalité le Beethoven de la dette.
Parce que c'est notre projet !
Mais ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, s'est voulue rassurante sur TF1.
Est-ce que le contexte est difficile, il est complexe ? Oui. Est-ce que nous sommes en capacité d'y faire face ? Oui.
Prisca Thévenot qui a également fait une annonce sur les retraites.
Il n'y aura pas de désindexation.
Pas de désindexation des pensions. Mais je crois qu'elle a parlé un petit peu trop vite et elle s'en est rendue compte.
Il n'y aura pas de désindexation des pensions de retraite.
Nous n'allons pas changer la trajectoire annoncée par le Premier ministre et rappelée par le Président de la République.
Prisca, juste oui ou non, tu affirmes ou tu infirmes, c'est simple, non ?
C'est très important ce que vous nous dites ce matin, il n'y aura pas de désindexation des pensions de retraite.
Mais il n'y a pas... Enfin,
Bon. Super, merci Prisca Thévenot, c'est du bon porte-parole à ça. Pour éviter de tomber dans le piège et éviter de dire ce qu'elle ne doit pas dire, Amélie Oudéa-Castéra, elle, a trouvé la technique sur RMC Découverte.
Est-ce que vous savez qui sera le dernier porteur de la flamme ? Non, vous le savez pas ou vous voulez juste pas nous le dire ?
Non.
Bah c'est simple, la ministre des Sports, elle ne répond à aucune question.
Où est-ce qu'elle sera installée, la flamme, pendant les Jeux ?
Bah elle va surtout, à partir du 8 mai, arriver sur notre sol.
C'est pas la question, Amélie.
Au moment des Jeux, elle est dans un lieu un peu emblématique.
La vasque sera allumée le soir du 26 juillet.
Bon, allez, dernière chance. Concernant le porte-drapeau.
Il y a quelques noms qui circulent. Vous choisissez qui ?
C'est les athlètes qui vont choisir.
Bah dis donc, c'était une superbe interview, ça. Hein, ouais.
C'était vraiment très intéressant.
Et on finit avec une enquête. Et cette question, où est passée Marie Toussaint ? La tête de liste des écologistes pour les européennes est introuvable. Je suis donc parti à sa recherche. Pour ça, j'ai écouté un débat sur France Inter.
On a tendance à oublier, notamment en France, que nous sommes le pays qui se réchauffe le plus rapidement dans le monde.
Oula, ouais, non, ça c'est une fake news. Mais non, ce n'est pas Marie Toussaint. Mais où est-elle alors, la députée écologiste ? Cyrielle Châtelain nous a donné un indice sur France Info.
Effectivement, elle fait pas le tour des plateaux, mais c'est parce qu'elle était en Isère, elle était en Franche-Comté, elle a été à Nantes. En fait, elle fait le tour de France.
Ah mais elle fait le tour de France ! Fallait le dire plus tôt ! Bon, si elle souhaite le faire jusqu'au 9 juin, oui, qu'elle n'hésite pas.
Oui, c'est un marathon, la campagne. Ah bah voilà pourquoi. Merci beaucoup, Dimitri Vernet. Bon week-end à vous. Allez, l'info continue sur Europe 1. L'heure des pros arrive dans quelques instants. Bonne journée.